Actu SF, les podcasts.
Bon, je vais faire un petit questionnaire avant de démarrer, comme ça je saurai à qui je m'adresse. Qui a lu ou au moins connaît ce que je fais en BD ? Ah, il va falloir que je me présente alors, il y a quand même des gens. Alors je fais de la science-fiction en fait depuis que je suis né. Mais je publie des albums de bande dessinée depuis 1995, où j'ai commencé avec une saga de zombies dans l'espace. Depuis 1998, je publie une histoire que j'ai intégralement écrite, qui est en 18 tomes, qui s'appelle Universal War. Et j'en suis à la moitié aujourd'hui, parce que je suis occupé à plein d'autres choses, malheureusement. Je fais de la bande dessinée que beaucoup appellent art science, ce qui est extrêmement faux. Il s'avère que par rapport au reste de la bande dessinée, c'est beaucoup plus art science que ce que font la majorité. Donc j'y reviendrai. C'est pour ça qu'on m'a demandé de parler de la rigueur scientifique en bande dessinée. Alors, la première pensée qui m'est venue quand on m'a donné le sujet imposé de ma rédaction, c'est « il n'y en a pas ». Vous verrez pourquoi j'ai pensé ça à la suite. Alors, pour passer rapidement, il y a de la rigueur en bande dessinée quand c'est le but de la bande dessinée. Quand on est dans la bande dessinée d'explication scientifique, évidemment qu'il y a de la rigueur. Marion Montaigne, quand elle essaye de faire passer des notions sur les trous noirs, évidemment qu'elle est rigoureuse. Mais je ne vais pas parler de cette bande dessinée-là, parce que son but est de parler de science et d'être rigoureuse, donc l'exercice est réussi, heureusement, par cette bande dessinée-là, autrement, il faudrait tous les brûler. Donc je vais vous parler de la bande dessinée plutôt de fiction, la bande dessinée de tous les jours, même, et de ses capacités à la rigueur. J'ai cité Marion Montaigne, mais la petite bibliothèque des savoirs, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets et qui veulent lire des livres très bien faits sur les sciences, qu'elles soient humaines ou dures, peuvent lire les livres de la petite bibliothèque des savoirs, c'est en général très bien fait. Et en effet, la bande dessinée apporte ses capacités à imager les notions, à mettre parfois un peu de fun dans ce qui peut être difficile. Voilà. Alors je vais vous parler d'un cas concret pour commencer, d'une des rares bandes dessinées dont on est sûr qu'elle est rigoureuse scientifiquement parce que c'était dans l'objectif de son auteur, alors que Dieu sait qu'il avait fait n'importe quoi avant. C'est Hergé sur Tintin. Quand il fait l'étoile mystérieuse, il raconte, on voit des savants fous, Philippus qui annonce la fin du monde, il va atterrir sur un aérolithe sur lequel poussent des champignons rouges et blancs, on va dire que la rigueur scientifique est approximative. Et d'un coup, après-guerre, lui vient l'idée de faire un voyage réaliste vers la Lune. Il a à l'époque un studio qui travaille pour lui. Il peut mettre en place des moyens humains très importants pour réussir cette aventure-là, j'allais dire pour dessiner chaque boulon, et il va le faire. Alors, ces albums, vous les connaissez bien, hein, c'est nos classiques Objectif Lune et je vais essayer de l'ouvrir tous d'un coup, autrement on est mort. Et on a marché sur la Lune. Alors c'est très intéressant parce qu'il écrit très vite à un savant, dès qu'il a l'idée. Il lui écrit parce que c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de rigoureux. Alors on est en 54, on est donc 15 ans avant la première mission sur la Lune, et on est même avant Spoutnik, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que vraiment, on n'est pas à l'époque allé dans l'espace, l'être humain. Il avait fait des livres, je sais pas, dans les Josette et Joko, il avait essayé de construire des prototypes d'avions, etc. Mais on était encore une fois dans des fantasmes un peu à la Flash Gordon, même s'il y avait une idée réaliste. Donc Bernard Heuvelmann, je vais vérifier son nom, il lui écrit, on a la lettre, hein, et l'autre va lui répondre. Il va lire ses livres, et c'est très intéressant parce que je voulais vous montrer ça, parce qu'en fait, on a l'exemple de la rigueur, on en a des. Alors pour ceux qui ont lu l'album, ils doivent reconnaître, ça c'est un schéma qui existe avant, qui est dans un des livres de ce scientifique, et on reconnaît exactement l'étage de la fusée lunaire, qu'on voit en dessous. Hergé s'inspire réellement des travaux de cette personne-là. On est sur... Alors cette personne a travaillé sur les fusées, alors c'est pas la forme de la fusée de Tintin, mais il y a quand même les notions de fusée creuse avec des étages, etc. On retrouve même les sorties spatiales, donc les choses qu'on va voir dans l'album. Donc Hergé vraiment s'interroge sur tout ça. Il s'interroge beaucoup puisqu'il fait des maquettes. Il fait des maquettes très précises. elle se démonte, on peut prendre les parties. Alors pourquoi il fait des maquettes? Parce que lui, il veut comprendre comment ça marche, il veut les faire valider par scientifiquement, enfin technologiquement en tout cas, mais aussi pour que tout le studio puisse travailler avec des sources hyper solides. On a des zooms sur les maquettes, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais c'est quand même très précis. C'est vraiment intéressant de voir ça, parce que là, on est bien dans le mot rigueur. Elle est scientifique dans les limites du savoir de l'époque, puisqu'on n'a pas été dans l'espace, donc il y a encore des questions qui n'ont pas été résolues. Mais les gens qui les livres qu'ils lisent et les gens qu'ils consultent sont des gens qui ont bien réfléchi. Alors cette maquette, pour ceux que ça intéresse, elle est au musée Tintin, à Louvain. Donc c'est quand même, moi je sais que j'ai passé un moment de retour à la regarder. C'est quand même très étonnant de voir un tel travail pour un album de bande dessinée. C'est un cas assez unique. Alors il s'inspire de choses existantes. Les couchettes, à l'époque, pour on est en train de réfléchir aux accélérations que vont prendre les pilotes d'avion, et donc on est obligé de trouver des positions pour qu'ils ne souffrent pas trop. Bon, depuis, on a inventé la combinaison anti-G. Donc, de fait, ce n'est plus devenu nécessaire, mais pour ceux qui ont lu l'album, hein, on est exactement dans la réflexion scientifique de l'époque et technologique de l'époque. Après, les inspirations sont parfois un peu moins... mais il y a vraiment l'idée de trouver le... Alors, moi, gamin, je me souviens... Le plan de la fusée, le fait qu'il y ait un plan, c'était vrai. Et on ne fait pas des plans pour faire des bandes dessinées, ça, c'est idiot, quoi. On ne va pas faire un plan comme ça. Et j'ai passé des heures à regarder comment c'était foutu, etc. Alors que le plan, quand on le regarde de près, c'est vraiment un plan à l'ARG, tout est très simplifié. On est dans un plan ligne claire, quoi. Il y a l'idée de rester dans le style de Tintin. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on peut après s'amuser à trouver des illustrations correspondantes sur la mission Apollo. Donc on voit bien qu'il y a le fantasme du blueprint, comme disent les Américains, du plan. Alors dans Cryozone, les pages de garde, mon premier album, c'était le plan du vaisseau, comme ça, sur fond bleu. Ce qui fait que, quand on ouvrait le livre, on a l'impression que les gars étaient partis dans l'espace, et donc ça justifiait le fait qu'il y ait des zombies après, quoi. Tout était crédible. Alors, la fusée lunaire, c'est intéressant, parce que là, c'est le prototype qui décolle dans Objectif Lune. Je vais dire nul. Et elle sort pas de nulle part, cette fusée. Hein. À côté, on a un V2 allemand. Alors les V2, c'est la deuxième génération de missiles intercontinentaux, et c'est les vraies premières fusées, parce qu'avant c'est les moteurs à réaction. Leur ingénieur en chef s'appelle Werner von Braun, c'est l'homme qui va construire Saturn V, la fusée qui va emmener l'homme sur la Lune. Oui, les Américains n'ont pas eu peur de récupérer des nazis, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà un V2. Alors bon, c'est noir et blanc hein, la photo, mais en fait c'est noir et blanc, en vrai. Ce qui est intéressant, c'est que Hergé lui-même nous a donné la clé de la couleur donc, quelques albums après, parce qu'en fait, il s'inspirait de ce livre, qui est un livre sur les recherches allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, où le V2, pour des raisons graphiques, est représenté en rouge et blanc. Et c'est amusant, c'est que ce livre, il le dessine dans une case de l'affaire Tournesol, donc quelques années après. Et on voit le livre, et en fait, dans ce livre, il y a aussi les coupoles à ultrasons qui sont au cœur de l'affaire Tournesol, parce que c'était aussi des recherches nazies. Donc il nous donne la clé de l'origine de la couleur, et j'ai jamais vu cette explication nulle part, alors que c'est étonnant, il est le premier à dire, voilà, ma fusée, le damier rouge et blanc, c'est cette espèce d'illustration du V2. Et vous remarquez qu'il retire la croix gammée quand même, on sent qu'à l'époque, il n'a pas trop envie de jouer avec ces symboles-là. Voilà. Alors bon, le réalisme, évidemment, pour ceux qui se souviennent à quoi ressemblaient les jeeps sur la Lune, l'idée de monter un char d'assaut, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais je dois dire qu'au moins, il risquait pas de rebondir sur le sol lunaire. Voilà. Alors après, il y a toute la fantaisie, des choses qu'il lit dans les livres savants. Il se rend compte qu'on peut jouer avec la pesanteur. Alors il veut présenter cette histoire d'occissement en bulle ou en boule. Et il présente évidemment l'alcoolique de service en train de le faire. Il y a un plaisir à faire de la vulgarisation scientifique. Et c'est une des meilleures vulgarisations scientifiques jamais faites, parce que quand ça passe par l'humour, comme ça, c'est vraiment extraordinairement. Pareil, la sortie spatiale qu'on avait vue dans les livres, il l'a refait encore une fois avec un ad-hoc alcoolique, parce que c'est définitivement une bonne méthode pour faire rire. Voilà. Et puis pour terminer, sur cette petite séquence, il dessine cette image-là au moment de l'arrivée de l'homme sur la Lune réelle. Tintin et ses amis accueillent, parce qu'ils y sont depuis 14 ans quand même, hein, donc franchement. Et on voit quand même, ce qui est drôle, c'est que c'est de l'humour, et en même temps, ça montre que lui-même voulait que ce soit vrai. Il avait fait ce travail de rigueur scientifique, même si c'était dans les limites, et c'est vrai que le costume d'Armstrong est quand même plus saignant que le costume de Tintin. Mais voilà, ça c'était la petite séquence. C'est un cas intéressant, parce que de fait... Ah, une dernière photo de... On voit que là, on a un exemple de vraiment rigueur scientifique en bande dessinée. Mais c'est quelqu'un qui est au sommet de sa gloire, qui a des moyens, d'énormes moyens, un studio, qui, quand il contacte un savant, on lui répond. Et je voulais vous montrer ça pour vous montrer un peu ce qu'on n'arrive pas à faire souvent. Parce qu'en bande dessinée, quand on parle science, on a plutôt affaire au savant fou. Hein. On a même toujours affaire au savant fou. Dans les plus vieilles bandes dessinées, on a le savant cosinus. Hein. Ça commence tout de suite. Alors ça, je pense que vous ne connaissez pas pour les trois quarts. Mais c'est un savant qui a... Alors si je me souviens bien, il veut inventer un moyen de transport, mais bon, il est déjà à peine capable de marcher souvent. Il a des aventures. Alors on est dans la pré-bande dessinée. Il n'y a pas encore la narration moderne. C'est quand même le garçon. Et c'est, à l'époque, c'est un très grand succès. Christophe est lu un peu partout. Et vous voyez, on voit venir les chutes d'Hergé. Je vous laisse lire le texte. Hein. Ah, pardon, alors, il ne faudrait pas croire, d'après la figure ci-dessus, que Cosinus, subitement atteint de folie, s'est cru transformé en chercheur de truffes et prend le cabinet du ministre pour une forêt périgourdine. Non, il a simplement, dans son émotion, fait un faux pas. Le savant fou, c'est vraiment la signature de la bande dessinée classique. C'est très étonnant quand on regarde de près. Quand il y a savant, il y a quasiment toujours savant fou. Bon, évidemment, Blake et Mortimer, on est dans les super savants fous, donc... Dans la marque jaune, là, voilà, alors, les machins qui font des trucs, le savant au milieu, qui est en train de manipuler les ondes mentales pour prendre le contrôle du méchant et lui faire faire, le faire le transformer en marque jaune. C'est vraiment la caricature du savant fou, quoi. Et il en a d'autres qui interviennent dans notre album, et c'est des personnages différents, mais ils ont la même tête, en fait. Et voilà. Le savant fou rit beaucoup. C'est dans le piège diabolique, en l'occurrence, ça. C'est déjà quelqu'un qu'on a vu dans l'album précédent, SOS Météor, qui est assez... dans lequel il y a une volonté de rigueur scientifique, justement. Et dès l'album suivant, il emmène ce même savant fabriquer une machine à voyager dans le temps cassée pour piéger Mortimer. Dans le genre, pour punir quelqu'un, inventer une machine à voyager dans le temps, la briser pour qu'il puisse plus voyager que dans un seul sens, c'est vraiment avoir le sens du complot, quoi. C'est assez remarquable. On est dans le savant fou, évidemment, chez Hergé. Je suis parvenu en image, mais on a les savants fous partout dans l'étoile mystérieuse. On a cet astronome qui est devenu fou, qui s'habille, qui va dans les villes en disant la fin du monde est proche. Et même le professeur Calix, qui est l'astronome sérieux, il a quand même souvent la tête en l'air. Quoi. C'est toujours le modèle du savant cosinus là, qui revient. On a évidemment le savant fou en égyptologie dans le cigare du pharaon qui est là, qui devient complètement fou à cause d'un poison. Et puis on a finalement l'incarnation du savant fou, mais fou gentil, avec Tournesol. Ce qui est amusant, c'est que Tournesol, qui est sourdingue, le mot intéressant, sourdingue pour fou, hein, il est d'un seul coup, il se fait appareiller dans Objectif 1 et On a marché sur la Lune. Au moment où l'histoire doit devenir rigoureuse, le sourd dingue devient ni sourd ni dingue. Et il y a même une séquence à l'intérieur où il devient complètement dingue, parce qu'il tombe d'un étage, et alors là, la scène du zouave, pour ceux qui ont lu l'album, il devient à nouveau le savant fou, mais alors comme il n'a jamais été avant. Donc on voit que cette question du savant fou est bien l'antinomique de la crédibilité scientifique. Et la mission sur la Lune, à ce moment-là, ils disent « on ne va pas pouvoir y aller », comme si dans une équipe qui construit une fusée lunaire, la mort ou la disparition d'un savant mettait fin au projet, ce qui est très étonnant. Mais ils disent bien « s'il est fou, on n'ira pas sur la Lune ». Donc on voit bien que la crédibilité, c'est le contraire exact du savant fou, en fait. Et en bande dessinée, c'est le savant fou qui domine. Alors il y a des savants fous très sympas, hein, ou très pas sympas. Là, on a deux savants fous. On a Champignac, qui est le savant fou, mais qui aime l'humanité, qui, avec ses champignons, fait des merveilles. Et puis, de l'autre côté, on a son ancien collègue, le savant fou méchant, qui veut prendre le contrôle de l'humanité. Encore une fois, en manipulant les ondes mentales, on voit qu'il y a des schémas qui reviennent. Les deux sont... le savant fou méchant est un incapable, heureusement. Il rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Mais le savant fou sympa est aussi relativement dangereux quand on y réfléchit. Alors, j'ai plein d'exemples pour les gens qui ne lisent pas Spirou. Mais Alors, ah oui, autre savant fou dans cet épisode, justement, c'est ça qui m'intéressait. Alors, comme ils ont trouvé un œuf de dinosaure en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus, ils font un colloque de scientifiques pour l'étudier. Et donc, il y a des collègues de Champignac qui débarquent au château de Champignac, et dont ce savant-là, qui pendant toute l'histoire a des espèces d'équations un peu effrayantes en tête, comme ça, et une tête à peu sympathique. Et en fait, il y a une case où on le voit dire « Eureka, j'ai trouvé », et on comprend à ce moment-là qu'il a inventé une arme terrifiante. Et à ce moment-là, il y a le dinosaure qui est né, qui le bouffe juste derrière. On voit Franquin en train de dire, voilà, moi je veux pas de savants fous dangereux, ceux qui inventeront des armes, ils termineront dans le ventre des dinosaures. Quoi. Et il garde les... Alors bon, la notion de rigueur scientifique avec le dinosaure de Franquin, je crois que j'ai l'autre photo derrière, voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de paléontologue dans la salle, mais ceci dit, il est quand même plus réjouissant que beaucoup d'autres. C'est le dinosaure le plus gentil. Je vous recommande de lire l'album, on a envie d'adopter un dinosaure après. Quoi. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dès la couverture, on devine qu'il y a un problème en termes de rigueur scientifique, parce qu'un œuf de dinosaure présenté comme un œuf à la coque, c'est quand même un truc très bizarre. Mais on voit le côté merveilleux du savant fou aimable, là, puisque tout le monde est souriant, attend la naissance de ce monstre qui va ravager la ville, en plus après, c'est ça qui est drôle, quoi, mais gentiment. Donc c'est le positivisme de Franquin, là. Et il me reste... ah oui, alors, ça devient même, en fait, un savant de caricature, parce que finalement, Tardy, dans Adèle Blanc-Sec, est en train de faire du second degré par rapport à ce qu'a été la lecture de la bande dessinée pour lui dans sa jeunesse. Et il introduit, il nomme un album d'Adèle Blanc-Sec, Le Savant Fou, et il nous présente le savant fou parfait, celui qui rit. Vous voyez, on retrouve la tête les têtes qu'on a vues... Moi, je me suis dit que pour devenir savant, il faudrait que j'apprenne à rire de manière sarcastique. Comme ça. Voilà le petit tour. Alors, soyons honnêtes, on parle surtout de bande dessinée science-fiction, là. Alors, c'est de la science-fiction, hein, de ressusciter un dinosaure. Hein, donc, à partir des années 60 et surtout 70, la SF... je vais boire un coup, parce que là, j'ai plus de... Il y a vraiment une explosion d'une SF qui, en fait, abandonne totalement la science. Le mot science-fiction, il pose problème depuis le départ. C'est qu'en fait, c'est un peu le mot général qu'on utilise pour couvrir anticipation, etc., etc. Et en fait, il y a le mot science dedans. Or, il s'avère qu'il y a une bonne partie de la science-fiction qui n'a aucune base scientifique. Le pré-modèle avant tout ça, c'était le modèle américain de Flash Gordon, où la question de la science ne se pose pas trop. On est vraiment dans ce qu'on pourrait, nous, appeler de la fantaisie, en fait, dans l'espace. La preuve, les généraux ont des têtes de Romains, l'infâme empereur Ming a la tête de la femme empereur Ming, et les vaisseaux ressemblent plus à des Cadillacs qu'à des choses capables de voler. Donc c'est, quelque part, dans les années 60-70, c'est cette SF-là qui prend le dessus en France, avec des gens comme Druyet, qui ne se posent aucune question de science. Alors, pour vous dire à quel point la notion de pont entre des planètes, pour unir les peuples, est traitée vraiment comme une idée, en fait. À aucun moment, ils ne se posent la question de savoir si ça peut marcher. C'est une image qui, moi, gamin, m'a perturbé beaucoup. Parce qu'il y a la moitié de mon cerveau qui disait « Waouh, c'est génial !» L'autre moitié qui disait « Mais c'est quoi cette connerie ?» Et je pense que tout le monde ressent cette ambivalence-là, et c'est une idée très très forte de mettre un pont entre des planètes. Mais bon, imaginons l'échelle d'un humain là, pour monter au sommet du pont, déjà, à pied, il doit falloir 2 à 3 ans, 10 ans, 20 ans, puis alors la gravité, on n'en parle pas, bref, laissons tomber toute tentative de rigueur, il n'y en a pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'aller n'importe où, sans se poser de questions, il finit par faire des extraterrestres très étranges, qui sont peut-être plus justes que les gens qui réfléchissent. Parce que comme il est probable que l'univers joue avec les dés comme on n'arrive pas à l'imaginer, peut-être qu'en fait, il y a plus de chances de croiser ça que toutes nos réflexions très sérieuses. Je vous montrerai mes extraterrestres après. Je me demande parfois s'il n'a pas raison de partir live. La drogue comme moyen d'explorer la science, c'est sans doute pas une mauvaise idée. Ah, j'ai dit qu'il se droguait, c'est pas vrai, évidemment. Non, l'époque était quand même un petit peu énervée par les substances magiques. On ne va pas se le cacher. Valérian, dès le début dès la fin des années 60 et des années 70. Alors, chez Valérian, il met en place ce qui va être la manière d'envisager le monde de Star Wars, et ils l'ont vu, il n'y a pas de doute. Il met en place l'idée de traiter de manière technologique quelque chose qui ne l'est pas. Le design en plaque du vaisseau, là, il laisse à penser que c'est un objet qui fonctionne. Bon, derrière, on voit qu'il y a quand même des restes de Flash Gordon qui traînent encore au début. Hein. Ce n'est pas tout à fait réglé. Mais là, quand il fait ça, on est sur le Faucon Millenium, avant l'heure, et on peut penser que c'est un objet scientifique. À part que cet objet scientifique, il se rend dans des stations spatiales gigantesques dans lesquelles tous les peuples de la galaxie se retrouvent, point central en l'occurrence là, et qu'il nous montre tout de suite la conception de son univers scientifique. C'est-à-dire que, vous voyez, au premier plan, on a un module d'un peuple rocheux, et puis chacun arrive avec son bout d'univers, l'agglomère, etc. La science est un univers magique comme les autres. On n'est pas du tout dans l'explication scientifique. On est encore une fois dans la fantaisie, dans le légendaire, mais il y a un habillage scientifique. Ils sont en train de mettre cette génération-là au point le modèle Star Wars, qui n'est pas de la science-fiction. Contrairement à ce qu'on pense tous naturellement, le fait d'être dans un vaisseau spatial ne veut pas dire qu'on fait de la science-fiction. Ça veut dire qu'on est dans l'espace. Star Wars, quand on regarde le scénario, c'est des princes, des princesses, des sorciers qui se battent pour le contrôle de l'univers. Méchant empereur, enfin, c'est Flash Gordon. Hein. Simplement, entre les deux, il y a 2001 Odyssée de l'espace, et il donne un look hyper sérieux, hyper crédible, hyper technologique à des choses qui font du bruit dans l'espace. Donc, en fait, on est sur un moment où il y a, on n'est plus du tout dans la rigueur scientifique, on est dans l'image scientifique. Et la rigueur, elle n'est pas un problème, parce qu'en fait, on ne va pas expliquer les pouvoirs d'un magicien, il a ces pouvoirs-là, c'est comme ça, et à la preuve, c'est quand il commence à expliquer avec les mythos, machin, truc chouette, là, il n'y a pas grand monde qui a été intéressé par une tentative d'explication sur la force. C'était nettement mieux quand c'était la force, qui était forte dans la famille, tout ça. Donc Valérian, moi je suis assez fan, en fait, même si parfois ça porte son âge, mais être capable de passer d'une sorte de vision d'un trou noir autour duquel s'enroule une nébuleuse qui est quand même une image de pure SF spatiale, et puis on descend sur la planète et puis il y a des créatures squelettiques et des voiliers volants. On est vraiment dans quelqu'un qui a la capacité de faire voyager du scientifique au magique et d'accoler tout ça, et que ça passe très très bien. Et il s'avère que les scénarios sont comme ça aussi, c'est-à-dire que l'auteur à l'époque est capable de faire une histoire qui a l'air d'être une histoire qui se passe au Moyen-Âge, et genre les oiseaux du maître, et qui en fait est une histoire marxiste qui explique l'ordre dans la société, comment combattre le dictateur, etc. C'est vraiment très malin, mais en termes de rigueur scientifique, c'est très, 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 très malin. Alors vous voyez, à un moment, on voit vraiment Star Wars, il n'y a vraiment pas de doute. On est avant Star Wars sur toutes ces images-là. Hein. C'est le merveilleux spatial. Et les princesses et les chevaliers. Donc voilà, c'est un monde sans rigueur scientifique, qui est un monde de magie avec un look scientifique. Et en fait, tout ça fait école. Le Vagabond des Limbes est carrément une histoire dans un empire galactique où il y a des conflits. Et en même temps, ils font de la science-fiction, ils font des épisodes très politiques. Ils interrogent le sens de la société, etc. On sent bien que la science a été éloignée, mais qu'après, l'envie de faire de la SF est toujours là. Je ne sais pas si vous connaissez Vagabond des Limbes, dans le genre truc que j'ai fumé la moquette, c'est bien aussi. Hein. Moi, je suis très très fan parce que j'ai des épisodes qui sont incroyablement forts, qui sont gênants. Et ça c'est toujours très étonnant de réussir à faire du gênant, surtout avec un dessin qui a priori ne l'est pas. Et puis alors, bon, le classique, l'incal, Jean Giraud, qu'on ne va pas pouvoir éviter en SF. Qui nous raconte une histoire de quelqu'un qui tombe dans le vide, la scène qu'on a vue 20 fois depuis dans la SF et dans les films, sur un monde qui a plutôt l'air réaliste, mais on est bien dans cette surface de c'est un monde de technologie, donc c'est une sorte de caricature ultime de notre monde à nous, déshumanisé, la preuve, il y a des robots policiers, etc. Mais le but de tout son travail est quand même à la fin de nous amener à la mystique. C'est-à-dire qu'à aucun moment la question scientifique n'est posée dans l'Incal ou dans les autres œuvres de Giraud, ça ne l'intéresse pas. Je pense même, à titre personnel, il n'avait probablement pas de culture scientifique autre que culture courante, je veux dire. Ça, je ne pense pas qu'il ait jamais été lire un bouquin sur la naissance du cosmos. Il a dû aller lire 400 bouquins sur la naissance de l'âme. Voilà. et sur la culture des graines aussi, peut-être. C'est bien de se moquer des grands aînés, ça détend toujours. Jean était quelqu'un d'assez étonnant, parce qu'il était en effet, c'était pas un rigoriste, c'était l'idée de le mettre dans un exposé sur la rigueur scientifique, je pense que ça l'aurait fait vraiment rigoler. Alors, ce qui est marrant, c'est que le réalisme, il revient parfois là où on ne l'attend pas. Moi, gamin, j'ai découvert le CERN, l'accélérateur de particules de Genève, dans un comics de super-héros français. Et puis ça ne s'annonçait pas comme l'endroit où j'allais apprendre à faire de la science. Hein. Alors, pour faire rapide, c'était dans les revues qui publiaient les Marvel. Mais il s'avère qu'il y avait deux bandes qui étaient faites par des Français, qui n'étaient pas dans l'univers Marvel, mais nous on croyait que ça en faisait partie, donc on trouvait ça génial, et qui racontaient des super-héros français. Alors Micros, en l'occurrence, et sa copine et son copain, qu'on ne voit pas là, pouvaient se réduire, c'était ça leur pouvoir. Alors, ça leur permettait de se glisser partout, de sortir, enfin, il y avait des tas de pouvoirs. Et là, en l'occurrence, ils s'introduisent dans l'accélérateur de particules du CERN. Et ils vont être accélérés. Alors, je n'ai pas retrouvé l'image, parce que je n'étais pas à la maison quand j'ai fait ça. Je dois l'avoir quelque part. Ils sont tellement accélérés. Donc, vous voyez le CERN, hein, 60 km, tout ça, enfin, les puissances énergétiques colossales et compagnie. Accélérés. Ils sont éjectés. Et en éjectant, ils reprennent leur taille, parce que là, ils sont complètement sonnés. Et en fait, là, je ne sais plus si c'était la fin de l'épisode ou le début de l'épisode suivant, mais il y avait une tranchée entre Genève et Lyon, qui ouvrait la Terre, comme ça, parce que à cause de la force cinétique colossale qui était en eux après avoir été éjectés. Je me souviens qu'on avait parlé dans la cour d'école, tout le monde, quoi. C'est incroyable. Et ce qui est drôle, c'est qu'on avait l'explication. C'est là que ça devient absolument génial, quand même. Plus personne n'oserait faire ça. Dans l'épisode, le plan du CERN, comment ça marche ? Avec la frontière entre la France et la Suisse, tout ça. Et ça, c'est les moments d'irruption de la rigueur scientifique, inattendue. Et y en a, je suis sûr que vous avez des tas d'exemples, où d'un seul coup, comme ça, le gars se passionne pour un truc et le fait. Alors, il habitait, je pense, à Lyon à l'époque, donc il avait dû aller visiter, il avait dû trouver ça génial, l'histoire apparaît, et il a envie, alors que d'habitude, c'est le grand n'importe quoi, de justifier son truc. Et l'air de rien, le fait que cette tranchée colossale soit créée par la science, et pas par le super-héros, cet épisode-là a été sans doute, pour beaucoup de gens, le plus marquant de la série, parce qu'on y a cru comme jamais. Il y avait un moment, mais ça pourrait arriver. Bon, à part que les mecs miniatures... C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, on convoque la rigueur scientifique à des moments pour augmenter le spectacle. Il y a quand même des gens qui se tapent le boulot. Alors, je n'ai pas voulu sortir les quelques exemples, parce qu'en fait, il y en a peu. Si je vous avais fait la liste complète de ceux qui ont fait le job, j'aurais passé une heure dessus, mais vous auriez vu des hors de choses que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, parce qu'en fait, ce n'est pas central dans la bande dessinée. Planète, quand même, un manga qui est un peu la référence dans ce genre-là, parce qu'il garde une certaine légèreté, mais c'est vraiment du béton armé, souvent. Il y a quelques erreurs qui ont été relevées à force par les scientifiques qui sont penchés dessus. L'idée, elle est très bête, très simple et très bonne. C'est des astronautes qui vivent dans l'espace et dont le boulot est de récupérer tous les débris de satellites qui ont fini par se cogner à force et qui ont rendu quasi inhabitables certaines orbites. Donc on voit là, voilà. Et ces gens travaillent à récupérer ça. Et c'est la base de l'histoire. Alors, ce qui n'est pas scientifique, c'est d'imaginer qu'il y a autant de gens dans l'espace. Ça se passe en 2075, si mes souvenirs sont bons. Mais... Après, chaque plan, on sent qu'il a réfléchi. C'est quoi la vitesse? C'est quoi les rapports relatifs? Comment on arrête des choses? Comment on dépollue? Et puis ça va plus loin après, parce qu'il y a toute une réflexion politique. Il y a une crise autour de l'hélium 3, si mes souvenirs sont bons. Il a vraiment... Alors, si vous voulez dire quelque chose de vraiment bien foutu, c'est vraiment étonnant. Et toutes les projections sont vraiment malignes. En même temps, on voit que c'est quand même du manga. Hein. Et puis, c'est une chouette histoire. Il y a des choses, par exemple, il y a un accident de radiation. Je ne sais plus comment il arrive, mais et on va suivre le personnage qui a un cancer qui se développe. Donc, les radiations, ce qu'on trouve dans l'espace, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, les radiations cosmiques. Voilà, merci. Et en fait, on va suivre en partie le cancer du personnage, etc. C'est vraiment très intéressant de voir quelqu'un prendre son sujet, le regarder avec rigueur et essayer d'exploiter jusqu'au bout. On est dans le prototype de ce qu'ils ont essayé de faire en moins sérieux dans Gravity. Voilà. Je ne serais pas étonné que ce soit la lecture de Gravity qui ait déclenché un truc chez un scénariste. Il faudrait
faudrait voir, mais de la lecture de Planète, je veux dire, qui a déclenché le Gravity Engineering. Voilà. Je me suis dit qu'après, c'était quand même plus intéressant de vous parler de mon expérience personnelle, parce que de fait, je suis un de ceux qui s'est posé cette question-là. Et comme on n'est pas très nombreux, et comme j'en ai vraiment chié, soyons vulgaires, je vais vous en parler. Alors, moi, pour ceux qui connaissent mon boulot, habituellement... je vais faire un point, je vais passer par une première notion, qui est celle de l'imagerie scientifique. Parce qu'avant de faire de la bande dessinée, il faut faire des images. Et déjà, c'est un gros problème. Il s'avère que ce problème-là, je l'ai rencontré récemment, parce que j'ai travaillé pour l'Université de Genève, pour l'Observatoire, sur des images d'exoplanètes. Ils sont venus me voir, en tant qu'auteur de SF, pour essayer de transformer l'image scientifique, considérant qu'on était, et ils avaient lu une tribune que j'avais écrite sur le sujet, considérant que l'image scientifique avait perdu le merveilleux scientifique. C'est faire venir les gens aux sciences, c'est pas obligatoirement leur dire toujours exactement la vérité au début. On peut parler de merveilleux, et ceux que ça va intéresser, ils vont éplucher, puis ils vont comprendre que le merveilleux avait ses limites, et que la réalité scientifique, c'est celle-là. Quand on commence tout de suite en disant « Bon, mon garçon, si tu veux qu'on parle sérieusement, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un quantum », on risque pas d'avoir grand monde qui se passionne pour les sciences, quoi. Bon, si en deuxième semaine, tu n'as pas retenu le spin de l'électron, dehors. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai qu'il y a une tendance en science à vouloir être sérieux, à vouloir être rigoureux. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire avec le grand public, en tout cas pour le grand public qui s'initie, entre autres les jeunes. Donc, les images que je peux faire, moi, habituellement, moi, je vous en ai mis un petit lot, je vais ouvrir la totale. Pour ceux qui sont venus aux Utopiales, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être ce genre de choses. Donc c'est Galactus, vous voyez, on est dans la rigueur scientifique. Pourquoi il dit voir des planètes, c'est l'espace. Alors là, on voit pas grand-chose, c'est quand même un peu sombre. C'est des hommages à Valérian. C'est des couvertures de romans de SF. Qu'est-ce que c'est sombre? Non, c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est intéressant, c'est un roman qui n'est pas encore sorti, mais il y a une étoile qui est enfermée dans une sphère de Dyson. Et on me dit, il faut représenter une étoile dans une sphère de Dyson avec trois vaisseaux. Et donc j'ai fait une étoile dans une sphère de Dyson avec trois vaisseaux. Ou les romans de Laurent Genefort, c'est vraiment très sombre, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, évidemment, le point de départ, quand on va représenter une exoplanète, c'est pas exactement lire le roman de Laurent Genefort ou de Jeanne Debat. C'est très même pas obligatoirement très clair. C'est surtout des coups de téléphone et des emails. Hein. Je vous montre quelques images pour vous montrer le niveau de discussion qu'on a eu. Alors, je vais vous expliquer très rapidement, si le truc marche. Voilà. Un soleil, une planète qui tourne autour, et elle dégaze, comme une comète. Mais c'est une planète. Exoplanète, donc. Et ils l'ont repérée parce qu'elle passe devant le soleil vu depuis la Terre, et qu'ils ont dit, c'est quoi toutes ces raies de gaz autour? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini par comprendre que ça dégazait. Ce qui est assez étonnant. Ils en avaient fait une représentation au moment de la première communication, ce qu'on fait aujourd'hui en représentation scientifique. Donc un soleil avec à peu près les bonnes tâches telles qu'on peut les évaluer avec les quatre photons qu'on a récupérés à l'observatoire, le phénomène vu, etc. Et quand ils ont fait une seconde communication, ils se sont aperçus entre-temps qu'il y avait des vents spatiaux extrêmement forts et que tout ça ne le montrait pas et qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent. Et là, c'est là qu'ils m'ont contacté parce que représenter le vent... les dessinateurs de la Horde de Contrevent, pour moi, c'est un saint, quoi. Parce que le vent, c'est le truc qu'on voit pas. Donc, on le voit par son impact sur les cheveux, la végétation, etc. Dans l'espace, comme il n'y a rien. Et on a discuté d'une solution et je leur ai proposé une solution. Et on voit rien. Ah, si, un petit peu quand même. J'aurais proposé de faire une régate galactique. C'est-à-dire que, comme on a l'idée des voiliers solaires, s'il y a une étoile qui fait plein de vent, c'est un endroit, c'est un bon spot pour aller faire de la voile solaire. Et donc, Star Regatta, il y a les classiques de la régate, dont celle de GJ 436. Donc ça, c'est le rêve que je leur ai envoyé. Ouais, on voit vraiment rien. Je ne sais pas si je peux... Ouais. C'est dommage. C'est des images assez claires, normalement. Mais vous reconnaissez la planète qui tourne, là. Vous voyez, qu'on voyait. Alors, de représenter de manière un peu plus magique, l'étoile, entre-temps, on s'est aperçu qu'elle était moins jaune. Alors, normalement, là, il y avait on voit des tas de vaisseaux, en fait, parce que c'est les gens qui observent la régate, et puis les grandes voiles qui partent, et on sent bien, en fait, qu'il y a du vent qui pousse des choses. Bon, après, on se bat pour que l'image soit compréhensible, et puis ça paraît dans la presse retournée. Bon, faut pas s'inquiéter, on comprend plus rien, mais voilà. Ils m'ont demandé une deuxième. J'ai à nouveau reçu des super schémas que je vous expliquerai pas. Mais là, comme il avait vu que j'essayais de chercher à me nourrir, il a commencé à m'envoyer des diagrammes Alors, c'est une planète, en fait, qui a une atmosphère en fusion, c'est très proche de l'étoile. Il a commencé à me calculer quelles seraient les couleurs que prendrait l'étoile, qui est une naine bleue, quelles couleurs elle prendrait à travers l'atmosphère. Donc, là, ça devient intéressant. Puis après, il m'a dit, ouais, tu vois, ça ferait un coucher de soleil comme ça, donc là, je sais pourquoi il m'embauchait. Et on a commencé à discuter des discussions, on a commencé à générer des images pseudo-scientifiques comme ça, avec cette surface en fusion. Et puis je lui avais dit, ouais, si on veut montrer qu'il y a des métal. Alors oui, c'est une atmosphère de métal, c'est un peu particulier. Oui, on est proche de la planète, le métal est en fusion, donc il y a une atmosphère de métal. Et je lui avais dit, il faut qu'on arrive à montrer que le métal est en fusion, puis qu'on arrive à montrer que c'est du métal surtout. Alors le métal en fusion, ça ressemble à un truc rouge, donc... Et en fait, on est parti de l'idée qu'il y avait à avoir des vaisseaux qui allaient récolter le métal. Parce que il suffit de mettre un truc derrière, puis de ramasser, puis on a plein de métal. Donc, alors, dernier envoi qu'on s'est fait, il m'a dit, ça c'est la taille du soleil, et puis les taches sur l'étoile, elles seront à peu près de la même taille, pas proportionnellement, mais en vrai. OK. Donc je lui ai proposé ça. On est, vous voyez, sur les... Voilà, ces vaisseaux isolés par un champ de force, hein, parce qu'eux, ils vont fondre, et puis avec ces espèces de collecteurs de métal. Voilà. Donc ça a été... vous voyez, entre les deux images, il y a une discussion scientifique. C'est quoi la distorsion du bord d'une étoile à travers une atmosphère comme celle-là? C'est quoi la petite lumière qui va finir par retaper en dessous? Et on ne peut pas considérer qu'il n'y en a pas. Voilà. Et puis on arrive à l'image finale sans les vaisseaux. Et il y avait une image finale avec les vaisseaux qui doit être ouverte derrière ou que j'ai oublié, que j'ai apparemment oublié. C'est pas très grave. Alors l'image finale avec les vaisseaux ressemblait à ça. Elle avait la même... Ah ben si, voilà. On retrouve la typo, parce que l'idée, c'est de faire une suite. Donc, le ramassage de métal chaud sur Kelt 9B, voilà, une des merveilles de l'univers. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a fait deux images, et là, on a fait une bêtise. Parce qu'en fait, de fait, dans le kit presse, donc c'est des articles qui étaient publiés dans Nature ou dans Science, vous voyez, très grande revue internationale, et le kit presse est fourni. Moi, j'ai été bien payé pour faire ça, mais après, on a mis les images en circulation libre. Le but, c'était que n'importe qui puisse les utiliser. Et dans le kit presse, il y avait les deux images, et en fait, il n'y a que celle-là qui est apparue. Donc j'ai fait une tribune après ça, qui est dans le Huffington Post, pour ceux que ça intéresse, sur le fait que les gens ne comprennent pas le merveilleux scientifique, et que cette image-là, elle semble jolie, mais en fait, elle n'a pas d'échelle, on ne comprend pas ce qui se passe, et que c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, tout le monde fasse semblant d'être rigoureux scientifiquement, alors que cette image-là, elle est évidemment qu'il n'y a pas de vaisseau autour de qui elle est en train de ramasser, mais elle donne autant d'informations scientifiques que l'autre. Et en plus, elle a un énorme avantage. C'est que là, il y a marqué que c'est de la SF. Ça veut donc bien dire que c'est une image inventée. Et à une époque où énormément de gens commencent à ne plus faire la différence entre les images scientifiques et les vraies images captées, moi, je trouvais très rassurant de mettre un énorme marqueur aux gens, leur disant, ceci est une simulation, ça pourrait ressembler à ça. Et en fait, hélas, c'est celle-là qui circule. Alors, on est en train d'en faire une troisième. On se pose la question de savoir comment faire. Parce qu'en même temps, évidemment, dans les revues scientifiques, c'est celle-là qu'il faut publier. Les chercheurs, il n'y a pas besoin de leur expliquer qu'une étoile, ça fait une certaine taille et que quand c'est rouge, c'est que c'est en fusion. Mais sur le grand public, on a intérêt à ajouter du merveilleux, de l'histoire et même des choses qui permettent de mieux comprendre l'image. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de solution. Là, on est vraiment en train de travailler sur la prochaine. C'est une planète d'hélium, avec une atmosphère d'hélium. Donc, comment représenter l'hélium? Dans la première idée qu'on a eue, c'était de mettre quelqu'un qui parlait comme ça. Mais en image, ça ne marche pas, en fait. Voilà, la question de la représentation scientifique, vous voyez, le moment où on passe des schémas qu'on m'envoie à l'image finale, c'est un travail de fou, parce qu'il faut rendre ça, il faut rendre tout clair, tout compréhensible. Et il n'y a pas un truc qu'on met habituellement, c'est-à-dire il n'y a pas les légendes. Ceci est un soleil, il fait telle taille. Ceci est un vaisseau de ramassage, etc. Il faut faire ça sans texte. Et c'est le même problème qu'en bande dessinée. Parce qu'en bande dessinée, on ne va pas s'amuser à mettre des légendes au milieu d'une case. Avec des petites flèches. Oui ? Oui ? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a toujours la mention, mais les gens ne les lisent pas.
Elle est trafiquée. Mais on voit très bien que les gens ne comprennent pas que c'est des CGI ou des fausses images. C'est en permanence les partages sur Internet. Tu as vu comment c'est beau sur la planète machin. Alors, le problème que je me suis posé, j'ai le temps. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai jusqu'à quelle heure normalement? Ah oui, on a le temps, c'est bien. Alors, je vais essayer de vous faire un petit panel par rapport à mon propre travail. Premier problème de la rigueur, expliquer. Et là, j'ai fait des PDF, hein. C'est bien. Alors, expliquer, c'est... alors, il y a un wormhole qui s'ouvre, un vaisseau qui en sort, il arrive à l'autre bout de la galaxie. Bon, ça, c'est visuel pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en dire plus que ce que raconte l'histoire. Il y a un moment, dans leur vaisseau, faut qu'ils commencent à expliquer vraiment ce qui s'est passé. Et comme moi, tout est sur une base scientifique, autant que possible. En fait, dans Universal War, j'ai fait deux énormes n'importe quoi scientifiques. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on avait la fusion nucléaire, et j'ai dit qu'on avait le moteur antigravité. Ça, celle-là, elle est... Et j'ai même dit qu'on avait la fusion nucléaire parce qu'on avait le moteur antigravité ou à gravité, puisque ça permet de confiner, en l'occurrence, les plasmas. Donc le fait de maîtriser le moteur nucléaire, le moteur gravitationnel permet de créer des fusions très facilement, ce qui est notre problème aujourd'hui, c'est le confinement. Et le fait d'avoir autant d'énergie permet évidemment d'alimenter les moteurs de... Donc en fait, à un moment, je dis, si on veut aller dans l'espace, je dis que ça existe, et puis basta. Donc on accepte l'argument pseudo-scientifique à ce moment-là, mais derrière, je vais essayer d'être à chaque fois le plus rigoureux possible. Donc j'essaie d'expliquer le phénomène. Alors c'est pas simple, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire des dessins, des petits dessins. Alors, comme je n'allais pas mettre des vrais petits dessins au milieu avec des légendes, comme je disais, en fait, c'est le personnage qui raconte, il finit par trouver un marqueur. Je ne sais pas comment il a un marqueur dans une navette. Enfin bon. Et il finit par faire des petits dessins. Alors, ce dessin-là n'est pas de moi, j'avoue. Il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé parce que je n'arrivais pas à faire une navette aussi pourrave. Non, parce que quand c'est dessiné, il y a un moment, on n'arrive pas à revenir au dessin d'enfant. Donc, j'ai demandé à mon épouse, qui a brillamment réussi ce ballon gonflable tordu. Donc, ce dessin est de Valérie Mangin, et qui est la seule co-auteure officielle d'Universal War. Mais vous voyez, ce qui est amusant, c'est le moment où on finit, pour rendre ça léger, on finit par passer par justement les petits dessins, les petites choses. Et dans le texte, c'est l'explication, mais tout devient... Et alors, on revient en schéma comme ça. Bon, alors, je ne vais pas vous faire l'explication, parce que ceux qui l'ont lu l'ont pas retenu. Et ceux qui le liront, ça serait... Mais ça permet vraiment d'expliquer la chose. Et c'est amusant de devoir finalement en revenir, et on arrive jusqu'à la fameuse explication du Jokari, puisque j'explique qu'ils vont pouvoir retourner à leur point de départ, parce qu'en fait, il y a un tenseur donc dans l'espace-temps qui leur permet de revenir. Bon. Expliquer la notion de tenseur à des gens qui ne savent pas ce qu'est un vecteur, ça devient vraiment très compliqué. Alors qu'avec un Jokari, même si tout le monde n'a pas joué au Jokari... C'est un des jeux qui a l'air le plus stupide de la Terre, donc on a tous vu quelqu'un se prendre un Jokari dans la figure. Donc. Vous voyez, c'est la rigueur scientifique, c'est dans mon cas, c'est de penser le truc le plus précisément possible. Je pourrais, si j'avais un peu de temps à perdre, travailler sur les équations de ce que je propose là. Il faudrait que je trouve un scientifique, parce que je n'ai pas le niveau de modéliser totalement ça, mais j'ai un modèle mathématique en tête qui est assez clair, et c'est lui que j'ai essayé d'expliquer avec un Jokari. Alors, l'autre mode d'explication, le pire, mais là, je n'ai pas pu y couper, c'est de raconter. Alors, et puis il a fait ci, puis il a fait ça. Alors, je montre le personnage en train de lire un livre, ce qui permet de justifier l'apparition d'images comme ça, clés, etc. Alors, ça, on fait ça dans un tome 1, et on dit adieu à sa carrière. Quand on fait ça dans un tome, dans le dernier tome, au moment où on a semé du mystère au kilomètre et qu'enfin on donne la réponse, les gens ils se lisent ça sans se poser de questions. J'ai jamais entendu une personne dire « Oh, c'est aussi chiant que Blakey Mortimer !» Pourtant, c'en est pas loin, là, faut avouer. Et je trouve ça assez amusant parce que ça prouve bien que l'attention d'un lecteur, elle est bien liée à l'envie d'avoir la réponse ou pas. Donc, quand je vous parle de merveilleux scientifique pour créer l'envie, quand on a créé l'envie, derrière, on peut faire digérer de la science, à mon avis, sans aucun problème aux gens. Mais il faut vraiment créer l'envie. On ne s'empêche pas de faire des dessins idiots. Hein. Saturne dépouillé par les banquiers, il ne faut pas que je fasse de la caricature dans la vie. Je pense que je n'irai pas loin. Et puis redépouiller une deuxième fois, mais voilà.
Ouais, c'est une sorte d'imitation pourrie du style Plantu, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Troisième type d'explication. Alors là, franchement, j'ai dû me retrouver à expliquer le paradoxe temporel dans Universal War II. Alors, la scène de référence pour moi, dans le genre, c'est dans le genre vulgarisation d'une idée, c'est dans Retour vers le futur, le 2. À un moment, le doc, il prend le tableau, il retourne, il fait « Ah, tu vois, il y a cette continuité, là, il y a celle-là, paf, paf, ils vont là, machin. » Et on a l'impression d'avoir compris. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, je crois que l'explication ne tient pas vraiment. Je crois qu'en fait, dans la durée que ça dure, pas grand monde comprend. Mais on nous a dit qu'on avait compris. Et ça, c'est très apaisant au milieu du film, dans cette comédie qui est quand même familiale, où on est là, nous dire, bah, tu vois, t'as compris, t'es pas perdu, mon gros, allez hop, à la suite de l'histoire. Et ça, moi, je me suis dit, c'est une bonne idée. Parce qu'il y a un moment, on accompagne les gens sur un récit, faut pas avoir peur. Donc là, je me suis dit, est-ce que j'explique vraiment ou est-ce que je triche? Cette scène-là, elle m'a pris du temps à cause de ça et j'ai fini par pas tricher. Mais j'étais parti sur l'idée de tricher parce que je me suis dit, je vais pas y arriver. Quand on en est à devoir citer un écrivain, alors j'ai mis mon personnage en train de faire une conférence. Alors là, il n'est pas devant une conférence, devant une ruche. Hein. C'est une université temporelle, comme il maîtrise le voyage dans le temps dans cette histoire-là. Dans chacun des modules, il y a quelqu'un qui arrive d'une époque différente. Comme c'est le fondateur de cette civilisation-là, ils vont écouter le fondateur, c'est pour ne pas perdre le contact. Donc cette université temporelle, il y a un nombre de places réduites, et il ne sait même pas, lui, de quelle époque viennent les gens en face de lui, mais il fait son cours. Il fait son cours à des voyageurs temporels sur le paradoxe temporel. C'est un peu paradoxal. Alors, il explique les différentes hypothèses. Comment expliquer les univers parallèles? Je me suis aperçu en tentant d'expliquer la scène à ma femme que j'ai fait ça un moment. C'est pas en deux. Je fais, ah, garde le geste, ça c'est humain. Ce qui fait que derrière le geste, je peux plaquer le schéma. Et tout de suite, en le lisant, on comprend. Mais vous voyez, alors ça c'est la vulgarisation scientifique, c'est d'essayer à chaque fois. Je me retrouve à faire Marion Montaigne dans un récit d'aventure. C'est quand même un drôle d'exercice. Et puis, la meilleure explication, c'était de faire qu'au milieu de l'explication apparaisse la même personne avec 10 ou 15 ans de plus, je ne sais plus. Donc la barbe a poussé, c'est l'avantage du Père Noël, c'est qu'on connaît son âge à la longueur de sa barbe. Et il apparaît, et il y a un dialogue entre, vous voyez, il sort d'un des modules, il y a un dialogue entre les deux personnages, et évidemment, le paradoxe est illustré par ce qui se passe devant nos yeux, qui est quand même la meilleure explication en bande dessinée. C'est à part que là, pour expliquer le paradoxe temporel, vous avez vu la longueur de la scène. Alors il repart. Hein. Et à la fin, l'ultime explication, disant qu'un paradoxe pourrait détruire l'univers, donc on a un pseudo Big Bang, et puis fin de l'histoire. Et notre personnage, qui est dans une des bulles, retourne à son époque. Voilà. C'est vraiment... la rigueur scientifique en bande dessinée, c'est vraiment ça le principal problème. C'est qu'on peut être aussi rigoureux, mais quand on veut commencer à expliquer, on bouffe de la page. Et la page... Ça coûte très cher, mon dessiné. Pas à faire. Mais un album classique, c'est 48 pages. Là, c'est une scène de 5 pages. J'ai 10% de l'album qui passe à expliquer le paradoxe temporel à mes lecteurs pour que, dans la suite de l'histoire, ils apprécient le sel de ce qui va se passer en termes de paradoxe. Si je m'amuse à expliquer tout l'univers physique que j'ai mis en place dans Universal War One, je vais passer Universal War One à ça. En roman, c'est une chance qu'ils ont. Ah, ils ne vont pas nous faire 4 pages sur un phénomène scientifique, hein, mais ils peuvent... Donc le texte permet de glisser plus facilement au milieu de l'action des explications. Et c'est une des grandes chances, et c'est pour ça que l'art science, c'est un genre romanesque. C'est pas un genre de cinéma, c'est un genre romanesque, parce que dans le roman, on peut amener l'explication. Alors j'en parlais avec Laurent Genefort, qui me disait, ouais, ben, on en chie aussi. Je lui dis, ouais, mais viens voir l'exercice, là, tu vas comprendre. Si tu dois glisser tout ce que tu as mis dans ton roman, dans 4 pages, en termes d'explication, c'est un cauchemar. Donc moi, j'ai fait le choix d'être rigoureux pour moi. Je pense que ça se sent quand on lit l'histoire, que tout est tenu, hyper tenu, réfléchi. Il y a encore des révélations à venir. Mon fameux moteur antigravitationnel sorti de nulle part, comme on l'écoute dans l'histoire, en fait, il n'est pas sorti de nulle part, il est lié à l'histoire et tout le monde va finir par le découvrir. Mais ça, c'est, voilà, c'est un moment construire son monde parfaitement, rigoureusement, et derrière, ne pas l'expliquer, le montrer. Et c'est assez, parfois un peu vexant. C'est en même temps assez drôle parce que je sens bien que les gens vont être bien surpris à la fin en comprenant certains ressorts physiques de mon univers. Quoi. Alors après, la représentation des planètes, hein, autre problème de rigueur scientifique. Alors on a des jolies photos, donc a priori ce n'est pas un problème. Donc là c'est Titan colonisé, avec des exploitations pétrolières. Il y en a même une apparemment qui est en feu. Enfin, pétrolière, pardon, gazière. Donc, dès le premier album, on se balade autour des ados de Saturne. Alors, ça va, on a la doc. Hein, j'en ai un peu bavé à l'époque pour faire des courbes, ça se voit. J'aurais dû décalquer la photo, mais j'ai toujours été un peu retors. C'est dommage, vraiment un peu sombre. Mais... Alors après, on se retrouve dans une histoire où on essaye de faire tenir les vaisseaux entre eux. On a une explication avec le moteur antigravitationnel pour les faire voler. On essaye toujours de garder des images cohérentes. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de poussée sur un vaisseau qui n'est pas attaché? Il se disloque, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on fait sauter une bombe sur les anneaux de Saturne? On a un trou. Et puis là, on fait « Ah, combien de temps avant qu'il se reforme? Est-ce qu'il vraiment il partira en rond comme ça ?» Alors on lit, on ne trouve pas la réponse. On interroge des gens d'observateurs qui font « Mais c'est quoi ces questions à la con ?» Il le dit gentiment, ils sont polis. Et en fait, je n'ai jamais eu la réponse. Je ne sais toujours pas si j'ai fait le bon choix. J'ai fait un choix en essayant de penser en termes de gravitation, tout bêtement. Mais j'en sais rien, en fait. J'ai eu plusieurs réponses différentes de différentes personnes. Donc, apparemment, je suis quand même à peu près dans le jus. Vous voyez, alors on retrouve là son joli trou. Il s'est toujours pas reformé. Pourtant, avec les forces de rotation, etc., il est probable que... Quoique, comme personne ne peut me le répondre, l'avantage, c'est que je suis rigoureux scientifiquement, puisque, pour l'instant, on n'a pas fait la preuve du contraire. Voilà, c'est un drôle d'exercice. Alors, rigueur scientifique, c'est de se dire que... Ah ben, on voit rien. Il y a marqué « elf », là. C'est de se dire, la rigueur scientifique, c'était de se dire aussi qu'il y aura de la grande industrie qui profitera du système solaire, évidemment. Hein. Ça, c'est une rigueur scientifique du côté de l'économie et de la sociologie. Voilà, ça, c'était pour vous montrer sur Saturne. Alors, étape après, puisqu'on a fait un trou dans les anneaux de Saturne, allons plus loin, coupons une planète en deux. Alors déjà, une géante gazeuse en deux, là, il y a un moment, on fait... Alors bon, le gaz, ça se coupe pas en deux. Alors on finit par faire des nuages autour, donc il traverse une nébuleuse, parce qu'en fait... C'est une sorte de nébuleuse qui entoure une planète gazeuse. Elle a fini par se répandre, elle reviendra avec la gravitation, il n'y a pas de doute. Puis on monte le noyau solide, coupé en deux. Alors là, les problèmes commencent à être vraiment graves. Quand vous faites un trait autour d'une planète, à l'échelle de la planète, il fait 400 km de haut. Donc il ne faut pas faire de trait, ou alors ce n'est pas une vue qui semble réaliste. Et il y a des tonnes de questions. J'ai essayé. L'idée de s'approcher pour permettre de montrer... Alors là, quand on arrive de là, c'est un pamplemousse, on peut à la limite ne pas comprendre ce que c'est, puis on s'approche, puis on voit que c'est une planète et qu'elle est vraiment bien coupée en deux. Alors elle est coupée en deux par un wormhole orienté, alors je ne vais pas vous expliquer ça, mais qui fait un effet de fil à couper le beurre. Alors pareil, quand on passe un fil à couper de beurre dans une planète, est-ce qu'elle se détache? Alors il faut pas être... Si on est parfaitement au centre, non, parce que l'équilibre continue et en fait, il ne se passe rien. Si on s'amuse à décaler un peu le truc... Le temps que ça coupe, il se passe des choses, il y a des moments cinétiques différents, et ça peut éventuellement, en se cognant, se détacher et tout. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Mais ça peut arriver, donc tant que ça peut arriver. Voilà, donc l'idée, c'est de réussir à montrer les échelles. Je ne pense pas qu'il y aurait d'éclair entre les deux parties du noyau. Ça, pour être franc, c'est vraiment pour faire joli. Hein. Et on finit par être tellement approché qu'on voit un des satellites face à l'énorme faille, comme ça, entre les deux parties. Est-ce que c'est rigoureux scientifiquement? Non. Est-ce que c'est totalement faux? Non. On est dans le moment où on veut être dans la magie des images, parce que l'air de rien, c'est de la bande dessinée. Alors dans le tome d'après, j'ai même montré la découpe. Parce que quitte à couper en deux, autant montrer la scie. Donc on voit le phénomène avec ce rayon qui passe au travers, des éruptions, considérant que le corps est encore chaud, qui est sur la trajectoire, et puis la planète qui s'ouvre. Et puis alors, derrière, on voit le wormhole dont je parlais. Donc c'est les échelles galactiques commencent à être impressionnantes. Les échelles, c'est un truc vachement dur, hein. Réussir à montrer les tailles. Au cinéma, on a la chance de pouvoir faire des zooms. Donc, en fait, en déplaçant la caméra, en reculant, en montrant une chose, etc., on arrive à générer des effets de taille. En bande dessinée, on doit multiplier les images, c'est assez compliqué. Alors, bon, puisque Uranus est coupé en deux, attaquons-nous la Terre. Alors, j'ai mis cette image-là. Alors, déjà, représenter la Terre, sans prendre une photo, c'est des exercices de dessin, de réinventer des matières, comme ça, de nuages, etc. J'ai vraiment essayé toujours d'éviter la photo, parce que je trouvais ça un peu triste. Alors, ils arrivent sur Terre depuis leur planète lointaine en passant sur la Station spatiale internationale qui a beaucoup grandi, puisque c'est elle qu'on voit là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre, mais... Et il y a quand même des panneaux, parce que c'est l'anniversaire, on est 100 ans après sa création. Donc on voit celle d'aujourd'hui. Petit moyen de mettre un peu de vulgarisation scientifique à l'intérieur. Ils rigolent sur le truc, et puis bon, l'autre, il est tout content parce qu'il voit la Terre, enfin, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Donc ils descendent sur Terre, vers l'Amérique, pour ceux qui ont reconnu la forme. Bon, il y a un moment gênant là dans ma vie, parce qu'en fait, ils arrivent à New York, ils se posent dans une gigantesque tour qui sert à poser les astronefs comme ça. Et donc le dialogue dans le journal paru le 6 septembre, c'était « C'est pratique, ces tours pour se poser dans New York ». Authentique. Donc il y a des gens qui ont écrit au journal en disant « ça va pas, vous faites de la gueule les trucs ». Enfin, ils pensent qu'on a dessiné ça juste après la sortie, parce qu'ils tombent sur le journal. Donc le dialogue a été un peu modifié. Et c'est venu en fait aussi haute parce que c'était le moyen le plus simple qu'un port spatial au cœur même de New York. Comment noyer l'information ? Bon, ils vont au McDonald's parce que, un peu de gastronomie, quoi, en venant de l'espace. Hein. Et en plus, ça leur plaît. Bon, il y a ce fameux wormhole, là, qui va être ouvert depuis la station orbitale. Comment montrer qu'un rayon coupe la Terre en deux ? C'est un problème à la fois de rigueur scientifique et simplement de compréhension de l'image. Donc, on le montre. Bon, alors, normalement, il est quasiment hyper fin, on ne devrait pas le voir, mais on fait un trait avec son pinceau le plus fin, enfin son routing le plus fin, et ça devient le wormhole. Et puis on essaye de le faire passer, alors comme ça on montre son effet. Vous voyez, c'est le moment où on monte la chose de manière presque expérimentale. La voiture est coupée en deux, le bâtiment est coupé en deux, bon, ça commence à pas tenir, il y a des fuites derrière le passage, et puis après ça passe à travers un building, et puis là ça aime pas. Je suis en train de dessiner ça pendant le 11 septembre, hein, en fait. C'est un moment assez bizarre. Donc ça tombe, les gens ont peur. L'humain, le témoin qui dit que c'est une catastrophe, c'est vraiment aussi des choses très importantes tout le temps. La chose continue, traverse, et puis là, y a de la lave qui sort, parce que comme il va jusqu'au cœur de la Terre, il y a des remontées. Boum. Donc on a une sorte de volcan qui s'ouvre dans New York, à l'endroit du passage. On voit qu'il avance dans la baie, il continue son truc. On voit qu'il y a une traînée de choses, c'est là qu'il est, c'est le point de percussion original. Et puis la lave continue à sortir. On s'amuse à faire des ondes de choc dans l'eau qui font 80 mètres de haut. Puis la plaque continentale explose. Puis explose. Et on montre en fait le. Vous voyez, c'est le fameux plan de cinéma dont je vous parlais, le recul, qu'on est obligé de simuler en bande dessinée pour montrer, réussir à faire comprendre l'ampleur de la catastrophe. Jusqu'à voir le fameux wormhole ouvert, la Terre qui est en train d'émettre sa nébuleuse de matière autour d'elle. Et une dernière page noire qui m'a été payée par mon éditeur. Donc ça, c'est montrer la destruction de la Terre. Si on veut rester dans la rigueur de son exercice, par exemple, on coupe le machin, il y a de la montée de lave, et comment on fait la plaque continentale pour céder ? Pas comme je l'ai fait. Ça craquelle, etc. C'est sans doute, ça ressemble plus à de la banquise qui se disloque, vous voyez ? Et puis avec des éruptions au milieu, et puis ça clapote, etc. Après, si on veut montrer la violence des événements, il y a un moment où on fait des choix qui sont des choix de non de réalisme et de spectacle. Et ce qui est drôle, c'est que cette scène-là, je l'ai revue dans 2012, où à la destruction de la Californie, il y a exactement les mêmes épis comme ça, et je pense, parce qu'ils passent leur temps à pirater les bouquins, je pense qu'ils l'ont vu là, en fait, qu'ils se sont dit c'est du grand spectacle. Parce que leurs conseillers en sismologie, ils n'ont pas dit que ça faisait ça. Hein. On est toujours coincé entre la rigueur et le spectacle et la compréhension. Vous voyez, c'est des questions que moi je me pose hein, systématiquement. Alors, ils reviennent après dans la station, beaucoup plus tard. J'ai refait cette scène-là parce que c'est important. Là, vous vous souvenez, il y avait la Terre en face. Et puis là, ils découvrent ce qui reste. Donc là, en fait, elle n'a pas été coupée en deux. Ça l'a volatilisé. Les chocs entre les parties ont fini par la détruire. Donc l'idée, c'était bien de montrer les différentes hypothèses par rapport à ce même phénomène de coupe en deux. Bon, puis en plus, il y a des nazis, donc l'ambiance est super bonne. Quoi. Montrer des restes comme ça en orbite, c'est pas juste scientifiquement. Mais c'est pour faire comprendre qu'il y avait une planète avant. Parce qu'autrement, ça ressemble à un soleil, le cœur en fusion, enfin, c'est pas. On fait sans arrêt genre de choix. D'abord, cette scène-là montre exactement les problèmes qu'on a et j'ai fini par faire un choix complètement délirant de montrer la Statue de la Liberté. Ce qui était impossible. Surtout qu'après, il y a la pyramide d'Égypte, le Sphinx, la Tour Eiffel, les gens. Il y a une collection dans l'espace. Hein. Bon, on comprend assez vite dans le reste de la scène que c'est une vision, évidemment. Pour information, la tour Eiffel coupée en deux, c'est une reprise exacte d'un dessin de Jacobs dans le Secret de l'Espadon. Donc je cite mes origines en tant qu'enfant fasciné par la destruction chez Jacobs.
donc des bouts de cathédrale, et puis on commence à voir voler. Alors là, en l'occurrence, c'est le cadavre de quelqu'un qui est mort dans une autre scène, à l'autre bout, hein, donc on commence à comprendre qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'ils soient dans ce champ de débris. Voilà. Et en fait, c'est l'humanité zombifiée qui est comme une vision et qui rentre dans le vaisseau et qui attaque le personnage. Voilà. Donc c'est bien la vision opposée de la vision scientifique qui est la vision humaine là, de détruire la Terre. Pour beaucoup d'entre nous, finalement, c'est en effet détruire la Statue de la Liberté, nos monuments, et l'humanité, beaucoup plus que de détruire le caillou. Donc j'ai essayé à chaque fois de montrer, d'avoir toujours les deux... Et de faire une croix sur la rigueur des moments pour justement repasser dans le bruit d'émotion. Alors, on a été sur Mars après. Alors là, Mars avec de la flotte, j'ai eu de la chance. C'est qu'entre-temps, quand j'avais écrit ça en 97, il n'y avait rien. Et entre-temps, il y a des gens qui ont modélisé Mars complètement avec les différentes hauteurs de terrain. Donc, on peut s'amuser à calculer assez facilement où va l'eau si on en met. Donc, j'ai pu m'emparer directement de choses faites, de modélisations existantes. Donc, j'ai pas eu à moi-même imaginer où allait rentrer l'eau. Bon, parce que c'était relativement évident pour la vallée Marie. Enfin, bref, cette vallée-là. Mais pour le reste, j'aurais eu du mal à imaginer qu'il y avait autant d'eau. Donc, quand on va sur Mars, c'est une Mars terraformée. Parce que quand on a l'énergie à volonté grâce à la fusion, on peut terraformer. Et rapidement. Donc, avec cette énergie-là, ils ont fait de Mars un superbe endroit avec quand même des centrales nucléaires. Mais non, en fait, c'est justement les moteurs pour modifier le... Voilà. Alors, réfléchir à un Mars avec une atmosphère, c'est quel degré de casque on leur met. Oui, à chaque fois, ça repose à nouveau les problèmes. Évidemment, on sait qu'il n'y a pas de ceinture magnétique autour de Mars, donc il n'y a pas de protection contre les rayons cosmiques. Donc, à un moment, on a mis en place énergie à volonté, on a mis en place un énorme générateur pour mettre une protection magnétique autour de Mars. Bon, on monte aussi les riches dans leur verrière. Voilà. Il y a à nouveau un plan. Ça, c'est un autre album, en fait. J'ai mélangé des pages de différents albums. Hein, c'est pour vous donner une vue globale. Bon, il y a aussi des quartiers qui ressemblent beaucoup à nos favelas ou à nos pays, ou la Syrie d'aujourd'hui, hélas. Quoi, ça... Il y a des zones de désert, toujours, parce qu'il y a quand même des chances. Bon, il y a un Las Vegas aussi. La Terre est détruite, donc il fallait bien faire des bons souvenirs. Donc, quoi de mieux que de faire une tour Eiffel moche, hein. Il y a aussi des attentats. C'est très sympa. Vous voyez le petit Las Vegas, là? Et puis, alors là, ça va être sombre. Il y a une attaque, hein, et le bouclier magnétique s'arrête, justement. Donc, il y a des aurores boréales au moment où il s'éteint. Alors pareil, là, on a une idée comme ça, on fait aurore boréale quand ça s'éteint, et puis on fait... Voilà, donc j'ai pas trouvé de source, donc il y a une aurore boréale quand ça s'éteint. Ça, pour moi, ça semble probablement pas rigoureux, mais dans l'imaginaire scientifique, ça symbolise quand même les effets de protection magnétique de la Terre, donc voilà, c'est un moyen de parler de la chose. Voilà, on voit vraiment plus rien, là. Bon, et puis après, il y a le mont Olympus qui explose, parce que souvent, c'est pas drôle. Oui, là, on voit vraiment rien de rien. C'est trop sombre. Puis comme j'en avais marre des planètes, j'ai attaqué le Soleil. Alors dessiner le Soleil c'est lumineux. Le papier, ça ne l'est pas. Rendre un sentiment de chaleur et de lumière sur du papier, c'est juste le cauchemar. Mais bon, on finit par trouver des solutions diverses et variées. Alors pareil, s'approcher beaucoup du Soleil, bon là, on sent qu'il y a un bouclier, mais c'est franchement n'importe quoi. Mais... Il y a des moments où le spectacle prend un peu le dessus. Alors, s'amuser à faire rentrer une sonde protégée par un bouclier dans la surface du Soleil, faire comprendre. Alors là, c'est plus ou moins liquide, mais c'est du plasma, donc ça ne devrait pas. Il y a un moment où on cède, hein, parce qu'autrement, on est incapable de faire comprendre la chose qu'on veut raconter. Surtout que le but, c'est de raconter que ce module rentre et ouvre un wormhole dans le Soleil, les fameuses structures qu'on voit. Voilà, donc je suis obligé un peu de passer par des moments par des choses pas très rigoureuses pour expliquer. Voilà. Dans la suite, en fait, on retrouve ce wormhole ouvert avec des chercheurs qui font des explications. Mais là, ils ont des hologrammes parce qu'ils sont vachement branchés. Où ils montrent des structures de sondes, etc. Ils vont à leur tour envoyer une sonde pour arrêter la première sonde. Oui, je sais, les humains, ils refont toujours deux fois les conneries. Ils font deux fois l'étoile noire, ils font... Et alors,
C'est vraiment, terrible quand on sait à peu près à quoi devraient ressembler ces images et qu'on sait qu'elles n'auraient aucune allure. Donc je me décide souvent, malheureusement, à tricher et à amplifier les effets. Faire sortir un triangle ultra plat du soleil en faisant comprendre ce geste-là, il y a un moment, j'ai pas de solution crédible. C'est pour ça que je vous dis qu'en bande dessinée, même la rigueur scientifique, elle tombe inévitablement à des moments. Quoi, parce que on fait pourquoi ça a zoomé ? On fait ce qu'on peut, mais... Alors le triangle se multiplie, il finit par recouvrir un bout du soleil. C'est un peu sombre, mais on comprend. De plus en plus. Ce qui est amusant, c'est de s'amuser à retomber sur le phénomène qui est une sorte d'éclipse vue depuis Mars. Donc en fait, il y a l'éclipse qui est sur le bas de deux pages. Les pages sont face à face, donc sur la page en face, on voit le... Alors là, c'est un vrai plaisir d'aller trouver des photos d'éclipse, de voir comment la lumière baisse, comment les couleurs pourraient changer, etc. C'est vraiment... En plus, c'est un hommage à Tintin. Parce qu'on revient toujours à ses sources. Voilà, ça c'est des... je vous ai montré cette séquence-là parce que, de fait, elle est relativement spectaculaire et claire, et en fait, celle-là, à mon avis, elle n'est pas du tout rigoureuse. Alors, les extraterrestres, je crois que l'ami Blanchard en a parlé plus qu'il ne fallait. Alors, je me retrouve à faire des extraterrestres. Alors, pareil, réfléchir à des races extraterrestres, hein, c'est vraiment très sombre, on a du mal à voir, c'est dommage. Là, j'ai fait des escargots baveux, qui ne sont pas des escargots, parce qu'ils ont des cornes et qu'ils n'ont pas de coquilles. Donc, c'est des limaces de l'espace. Moi, j'ai du mal à envisager, quoi qu'il se passe, que ça puisse ressembler à des formes existantes, et en plus, que ce soit des choses qui aient des mêmes tailles, des mêmes apparences. Vous voyez, alors, donc, il y a une faune extraterrestre, là. On en voit certains qui sont apparemment dans des modules pour les protéger, parce que ça ne va pas être la bonne atmosphère. On en voit qui ont l'air de porter des trucs de moines, donc on est quasiment dans des civilisations religieuses. On a des poulpes, on a des... J'ai vraiment l'idée que pareil, les vaisseaux extraterrestres, faire sentir la différence avec la situation dans laquelle on est. Donc, les vaisseaux des poulpes qui ont des tentacules, c'est un peu con-con, hein, je l'avoue, mais en même temps, c'est un bon moyen de faire comprendre. Voilà, j'ai les éléphants de l'espace, là, avec quatre yeux. C'est vraiment un drôle d'exercice. J'ai été voir beaucoup, à ce moment-là, évidemment, de xénobiologie. J'ai essayé de trouver des formes de vie a priori à peu près compatibles entre elles pour qu'elles puissent se réunir. Et en fait, je n'ai pas du tout été satisfait de ce que j'ai trouvé parce que là, ou alors on est totalement extérieur à nos formes de vie à nous et c'est quasiment irreprésentable. Ou alors il y a une grosse tendance à faire des évolutions parallèles, pas si différenciées. Donc finalement, je suis parti sur l'idée de faire des. Bah, de penser comme Druillet, quoi. De faire des trucs un peu tripants, quoi. Je suis moins bon que lui là-dessus, mais voilà, c'est. Donc la rigueur scientifique, elle s'arrête en permanence aux limites de tout ce qu'on peut faire, parce que vous voyez, sur quelque chose qui convoque autant de sujets, on finit par devoir acquérir un 12, 15, 20 cerveaux pour stocker le nombre d'informations nécessaires et être rigoureux. Quoi. Donc à des moments, je craque. Je vais vous montrer le rêve en orbite. Bon, là le gars, il va avoir une préscience de sa mort à venir, et puis alors, quitte à faire de la préscience, c'est encore très sombre, il voit vraiment des images barrées, quoi. Il voit du Druillet, ou du Valérian, ou du... Pour moi, c'est plus simple de représenter l'effondrement d'un monde comme ça que de finalement essayer de le faire de manière réaliste en disant que c'est juste de la préscience. Donc on finit par construire des rêves éveillés, des mises en page disloquées, des... Ça, c'est le conflit intérieur, c'est la version super-héros du conflit intérieur. Et la réconciliation, ce qui sert de couverture à cet album-là. Alors, pour finir, toute cette rigueur, elle est en conflit permanence donc avec la belle image, au-delà d'être en conflit avec l'image compréhensible. Vous avez compris qu'il y avait le problème de faire comprendre. Maintenant, il y a envie de faire simplement des belles images. Donc, dessiner une galaxie, c'est très sympa. Montrer un wormhole gigantesque dedans, ça ressemble à un clou quand même, vu d'ici, hein. Un wormhole qui, en passant, dévore un soleil. À quel moment on fait la belle image? À quel moment on fait le truc? J'ai pas de solution. Et y a c'est vraiment dommage que ça ressemble à un astéroïde éclairé. Ça, c'est des images d'astéroïdes que classiques. Et puis, j'ai essayé de les mettre en scène. Éclairer un astéroïde comme si on était en Batman, c'est quand même assez réjouissant. les piliers de la création comme font un décor spatial. Ah, c'est très sombre, là. Les wormholes, ils ne sont pas très visibles. Ah, celui-là est déjà plus visible. S'amuser à montrer, avec l'atmosphère, le wormhole, il ne serait jamais noir. Il devrait être totalement, quasiment invisible. Parce qu'en fait, dans son éclipse, on ne voit pas la Lune. Donc il devrait. Mais à un moment, on fait le choix de le montrer parce que c'est une image qui fait peur, quoi. C'est quoi cette chose gigantesque dans le ciel? Et si on, finalement, on ne montre qu'un ciel avec un bout de soleil qui monte, on ne comprend pas l'image. Donc il y a vraiment sans arrêt des arbitrages comme ça entre des choses qu'on sait être fausses. Ben voilà, le plaisir de dessiner des donuts de l'espace, je ne vais pas m'en passer, quoi. Enfin, on n'en voit rien, mais le plaisir de montrer un ensemble de triangles qui recouvrent une planète avec des ruines, le plaisir de montrer des vaisseaux qui s'arrachent, qui explosent, qui laissent des trous béants. Voilà, c'est des images qui n'ont aucune rigueur scientifique, qui sont juste pour le spectacle. Donc, montrer un télescope de l'espace gigantesque, ça ne sert à rien, je veux dire. Pour avoir cette image-là, on fait un interféromètre en l'air, on s'amuse à mettre des petits modules. Personne ne va faire un miroir de 380 km de large, à part des mecs super riches de l'espace qui ont envie de montrer qu'ils sont riches. Mais bon, bah, ça doit être ça, en fait, voilà. C'est les éléphants de l'espace, hein, ils ont beaucoup d'argent. Les satellites aussi proches de planètes, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Les ronds visibles depuis l'espace, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Surtout quand on des ruines, quoi. Les tempêtes sur les... bon, ça, c'est pas trop n'importe quoi, mais bon, à cette échelle-là... mais bon sang de bois, ça fait rêver. Je termine juste, et puis après, on va passer aux questions. Les squelettes géants avec le vaisseau qu'on a montré faire un kilomètre de long qui passe tout petit à côté d'un squelette, c'est n'importe quoi, même si la gravité est basse. Aucune créature dans le cosmos ne fera cette taille-là. Mais c'est quand même génial. Les robots géants vautrés dans les villes, c'est quand même génial. Voilà. Il y a quand même un plaisir qu'il ne faut jamais... la bande dessinée, c'est graphique. En moi, il y a le gars qui a été voir une fusée Ariane décoller quand il avait 13 ans, qui se voyait ingénieur, etc. Et puis il y a le type qui lisait Valérian ou Flash Gordon, et qui... et j'essaie d'être les deux. Et je pense qu'en fait, quasiment tous les auteurs de bande dessinée, même les plus qui voudraient être les plus rigoureux, ont évidemment toujours le cœur à faire de l'image. Et c'est pour ça que, pour terminer rapidement, la bande dessinée et la rigueur, c'était un mauvais sujet de conférence. S'il y a des questions, moi j'en ai une là.
Vous l'avez dit, c'est renseigné ici, c'est fastidieux. Est-ce que vous n'avez pas tendance dans votre travail, avec l'avancée de votre carrière, à faire un peu moins d'ailleurs scientifique, un peu plus de plaisir? Ou alors c'est vraiment garder l'équilibre que même aujourd'hui vous cherchez à garder?
Ça dépend des albums en fait. Là, c'était un album hommage à cette SF là. J'avais vraiment fait le choix dans ce tome 3 d'Universal War 2 d'aller sur ce terrain là, vraiment. Parce que j'en avais envie, mais parce que dès le scénario du départ, il y avait un moment où il fallait qu'on change de dimension. Pour dire galactique, parce qu'au début c'est système solaire, pour dire galactique, à un moment il faut convoquer un fatras d'images galactiques. Si on reste sur que des images très sérieuses de science, finalement, c'est pas habité. Alors que là, c'est profondément habité, donc ça induit toute l'idée qu'ils sont mis d'un truc qui les dépasse totalement. Voilà. Donc je m'étais dit, dès le départ, cet album-là, ce sera l'album d'hommage à la science-fiction, spectacle. Voilà. Il y a des albums qui m'inquiètent là, sur la suite, parce que c'est des albums très sérieux scientifiquement. Il faut que j'arrive à rendre ça compréhensible, puis pas chiant surtout, parce que j'ai jamais... Ma dernière envie, c'est que les gens fassent « Ah ouais, non, il se la pète, il veut montrer qu'il est intelligent. » Et mon but n'est pas là, mon but, c'est de faire du merveilleux scientifique, quoi, réellement. Quoi. C'est de faire partager ce goût pour la magie de la science que j'ai. Parce que je ne suis pas scientifique, hein, j'ai une formation solide, je me tiens au courant, mais j'arrive au niveau des fourmis sous les chaussures de Roland Loup, quoi. Enfin, c'est... Oui, mais encore une fois, c'est les exemples que je donnais. À partir du moment où c'est le but principal d'un récit, d'être rigoureux et scientifique. Ceux qui n'y arrivent pas sont des nuls. Mais heureusement que ce récit y arrive, parce que je vois pas. Si c'était pas réussi, ce serait grave, parce que c'était son but principal d'expliquer ça par son récit. Voilà, c'est très bien, quoi. Oui, mais je dirais que c'est rare parce qu'il y a peu de gens qui décident de faire ça. À partir du moment où on veut le faire, s'il y avait plus d'auteurs de bandes dessinées qui disaient « moi, mon but, c'est de porter des concepts scientifiques de manière rigoureuse, j'allais dire à l'écran, mais au livre », on en aurait plus. Il s'avère que ce n'est pas le moteur, apparemment, pour dessiner ou pour écrire de la plupart des gens. C'est même étonnant le nombre de scientifiques qui ne font pas du hard science quand ils font du roman, par exemple. Quand j'étais gamin, je pensais que les scientifiques faisaient de la hard science, puis que les journalistes, ils faisaient des trucs rigolos, quoi. Et en fait, c'est plutôt le contraire. On sent une énorme envie d'expliquer chez les gens qui ne sont pas des spécialistes du genre, parce que je pense qu'ils s'expliquent même à eux-mêmes en allant jusqu'au bout du concept. Et à l'inverse, les scientifiques, ils pètent un câble quand ils font du roman, parce que ça leur fait du bien de... J'ai un cas sur cette question qui est intéressant, c'est celui de mon épouse. Valérie, elle est chartiste. C'est un peu les polytechniciens de l'histoire. C'est une grande école à Paris. Elle a été formée scientifiquement à l'histoire de manière en béton armé. Quand elle voit une BD historique, dans la seconde, elle dit « c'est de la merde ». Elle ne le dit pas parce qu'elle est très gentille, mais son cerveau lui dit « c'est de la merde ». Pourquoi ? Parce que la reconstitution, en tout cas pour tout ce qui est avant le XVIIIe siècle, on n'a pas la documentation pour reconstituer proprement ces époques-là. Donc, il y a dû inventer partout. Et plus on recule... Et donc, très longtemps, elle s'est refusée à faire de la BD historique parce que scientifiquement, c'était obligatoirement n'importe quoi. Aujourd'hui, elle fait Alix Senator, donc du romain, donc, qui est une des civilisations les mieux documentées, mais il n'empêche, elle passe son temps à inventer parce qu'elle a fini par admettre, en effet, que la vulgarisation autorisait une certaine légèreté à combler des trous. Mais c'est délicat. Hein. C'est l'éternel exercice. Quand on vulgarise, on trahit. C'est très, très rare de ne pas dire des trucs horribles quand on vulgarise. Hein. Je ne sais pas s'il y a des vulgarisateurs scientifiques dans la salle, mais c'est un exercice délicat, quoi, de peser le niveau de trahison qu'on va faire pour amener les gens au concept en se disant que s'ils le comprennent, on les amènera plus loin au coup d'après. Quoi. C'est toujours... C'est des approximations qui sont des trahisons du concept. J'entendais Roland expliquer l'intrication quantique. Il prenait des exemples que tout connaisseur sait être faux. Mais c'est le seul moyen d'expliquer à des gens qui ne comprennent pas. Et à la fin, quand on expliquait, et il le fait très très bien, c'est un excellent vulgarisateur, il a dit que c'était faux et il a expliqué pourquoi. Mais c'est un exercice extrêmement complexe parce qu'on est obligé de prendre des explications. C'est le coup de l'atome qu'on a expliqué par le système planétaire pendant une époque, qui est une catastrophe en termes d'explication en fait, de ce qu'est un atome. Mais les gens ne comprenaient pas autrement. Donc plein de gens ont cru que c'était un machin avec des trucs qui tournaient autour. Et on a toujours le symbole de l'atome. Il y a des gens qui font de la SF aujourd'hui avec des atomes qui tournent comme ça. Enfin, c'est ce qui est du grotesque absolu quand on sait aujourd'hui ce qu'est une particule et un atome. En même temps, est-ce qu'il fallait dire aux gens tout de suite leur parler de quanta ? Enfin, ça fait exploser le cerveau. Quoi. Enfin, c'est...
J'ai une question sur la cohérence, la...
Oui. A priori, c'est notre monde. Voilà.
Et peut-être que la question, je ne sais pas comment ça s'articule, la question de la rigueur, j'ai l'impression que quand vous parlez de rigueur, vous parlez de la cohérence des univers avec ce qu'on sait de la monde. Est-ce que c'est forcément ça être rigoureux ?
Alors,
on peut imaginer une science différente dans un monde différent.
Oui, proposer un modèle scientifique, je vais le faire en l'occurrence, puisque dans Universal War. À la fin de tout et au début de celui, on a la proposition d'une nouvelle physique. Donc derrière tout ça, derrière mes trucs inventés dont je parlais au début, il y a une physique. Donc je vais la proposer. Donc c'est pour ça que quand je parle de rigueur scientifique, c'est que je sais moi qu'il y a un modèle physique et que ce que j'ai raconté, qui pourrait paraître aberrant par rapport à notre physique, correspond à ce modèle physique. Donc c'est bien un exercice de pensée scientifique que j'essaye de mener sur ces 18 hommes-là. Bon, j'ai déjà repéré qu'à 2-3 fois, j'avais oublié mon exercice de pensée parce que c'est tellement de trucs à gérer. Mais donc, c'est bien de la rigueur scientifique à ce titre-là. Je n'essaie pas d'être... justement, j'essaie pas tant que ça de correspondre à notre réalité qu'à ce modèle que moi j'ai établi, parce que c'est la proposition la plus intéressante que je fais. En gros, c'est une proposition de rajouter un axe sur le comment dire ça, simplement sans trahir l'histoire, je peux pas. Bon. Mais j'essaie de rajouter une dimension à notre physique, voilà, réellement. Alors déjà, écrire un scénario, que ce soit pour le roman, enfin le synopsis, la base d'un récit, que ce soit pour le roman, le cinéma ou la bande dessinée, c'est déjà un exercice de pensée terrifiant. Ceux qui écrivent ici le savent, c'est souvent le moment le plus douloureux. Parce qu'en fait, on crée un monde, en effet. Donc on articule ses règles, quel que soit le genre. Et c'est tout à fait ce qui est... les mauvaises histoires sont celles qui n'ont pas de règles. Et si la règle doit être de ne pas avoir de règles, au moins il faut que ce soit la règle, quoi. On a même classé les littératures fantastiques à travers la manière dont les règles sont générées. C'est Todorov, entre autres, qui fait ça pour ceux que ça intéresse. La règle, y compris de dire que c'est absurde, c'est une règle. Voilà. Derrière, construire son histoire en y ajoutant des règles d'ordre scientifique, un ensemble de lois, etc., ça ne vient que complexifier ce système-là, parce qu'on doit à côté gérer toutes les trames personnages, le plaisir événementiel, alors en bande dessinée, les lieux visuels où on veut passer. T'as l'air de rien, mais... en toute franchise, il y a des moments où j'arrive pas à écrire parce que j'ai pas le cerveau assez puissant. J'ai pas tapé sur les limites de mon cerveau quand je faisais études de sciences, je tape sur les limites de mon cerveau quand j'écris. Je me rends bien compte à des moments que c'est trop de données, trop d'interactions entre les données, donc je pourrais pas donner de conseils là-dessus, parce que je pense qu'on est vraiment dans l'exercice de pensée absolu, dans tout ce qu'il y a de plus beau, et dans tout ce qu'il et plus on complexifie donc son modèle de départ, plus il devient complexe. La partie d'échec tourne au cauchemar. Un grain, deux grains, quatre grains, huit grains. Aujourd'hui, je ne sais pas avec combien de cases je joue. Ce que j'appelle mon plan de métro. Il y a toute la structure narrative de l'histoire qui existe. J'avais publié le début du plan de métro dans l'intégrale Universal War One. Le plan, il fait 8 fois 100 en surface, quoi. À un moment, je l'ai fait parce que je me suis dit, tu vas te planter. J'ai passé 3 mois l'année dernière à écrire sérieusement mes règles de physique en me disant que j'avais été trop sommaire. Donc j'ai écrit, je ne les ai pas écrits sérieusement en termes scientifiques, parce que je n'ai pas le niveau, j'ai fait l'article 200 CV. C'est-à-dire j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais noté et cette intuition scientifique que je me suis donnée, hein, que je ne vais pas expliquer là parce que c'est vous spoiler la suite, mais j'ai essayé d'écrire l'article de vulgarisation. Vous voyez comment on travaille, on découpe, hein, par morceaux, parce qu'autrement c'est pas tenable. Hein. Je suis pas une équipe scientifique. Hein. On rajoute encore 50 points de QI, j'y arrive pas. C'est pour ça que Dieu doit être vachement intelligent s'il existe, parce que quand même il a tout ça dans sa petite caboche. Voilà. C'est un conseil, c'est une demande de conseil d'écriture ou. Eh ben, on faut découper en morceaux, comme une expérience physique. Il y a un moment, j'ai fini à des endroits à réduire les problèmes, à essayer de les régler. À des moments, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas compatibles au résultat, donc j'ai retravaillé. Alors l'histoire peut plus facilement se plier aux règles de physique, parce que là, il y a un moment, si on est obligé d'inventer une règle de physique pour se sortir de son histoire, c'est qu'on s'est planté, quoi. Il y a, ne jamais changer les règles en cours de route. Hein. C'est ce qui a été insupportable dans Star Wars à un moment, justement, avec la force, c'est qu'ils ont changé la règle, quoi. C'est-à-dire, c'était un truc qui radiait l'univers, tout le monde y avait accès, etc. Puis d'un seul coup, ça devient des trucs dans le sang. Non, quoi. Moi, c'est le truc qui m'énerve, les changements de règles. Terminator, il change la règle. Au début, c'est un récit en boucle, parfait. Et puis à un moment, on peut changer le temps. Bah oui, bah alors, faut décide vieux, mais. Les voyages dans le temps, c'est ça qui est insupportable. C'est les mecs qui changent de règle au cours de l'histoire. Et c'est le plus gros défaut des voyages dans le temps, en général. Voilà, mais après, j'ai pas de conseils à donner parce que c'est invisible, hein, franchement. Non, mais c'est pour ça que parfois je suis en retard aussi. Hein, c'est que j'ai le cerveau qui explose, quoi. C'est. Faut que je sois précis par rapport à mon modèle. Je reste précis par rapport à mon modèle, mais mon modèle étant lui-même basé sur des. Ah, il est basé sur mes lectures scientifiques de 90 en plus. Hein, parce qu'il faut réaliser que. Non, parce que être cohérent par rapport à son modèle, c'est être rigoureux scientifiquement si c'est un modèle scientifique. Une expérience de pensée, elle nécessite de la rigueur et de la méthodologie scientifique. Enfin, je veux dire, elle n'échappe pas à ça, quoi. Un scénario pourrait échapper à ça, on pourrait être que dans la cohérence. Mais je pense qu'à partir du moment où j'introduis un exercice scientifique à peu près calé dans notre réalité et dans nos règles aujourd'hui, je pense que c'est un exercice de rigueur aussi. Voilà. Pas complet, pas total. Voilà. Oui, mais j'ai beaucoup de lecteurs qui ne savent pas. Mais d'abord, c'est compliqué. J'ai passé pas mal de pages dans la première saga à expliquer qu'on ne pouvait pas modifier le temps. On voit même les personnages revenir dans le temps pour essayer de modifier et provoquer les événements qui voulaient empêcher. Quelques pages après, la Terre est détruite. Et puis, il y a 80% des lecteurs qui ont débarqué en disant « Oh ouais, mais heureusement, ils peuvent modifier dans le temps, ils pourront changer ça. » Donc, on ne se fait pas beaucoup d'illusions quand on est auteur. Hein. On est lu le soir par des gens fatigués. Et on a de la chance quand c'est pas aux toilettes. Vous savez que c'est un petit détail, mais à l'imprimerie, moi, je vais toujours voir les feuilles d'impression aux toilettes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont les lire là, et que les regarder sur la superbe lumière de l'imprimerie, si ça ne tient pas aux toilettes, on va avoir des problèmes avec beaucoup de lecteurs. Donc c'est pas négligeable. Vous voyez, on pense à des choses comme ça aussi. Mais j'essaye de faire au mieux. Encore une fois, parfois, je me dis, je m'en passe, tant pis. Ils iront voir Wikipédia, puis après je vais lire la page Wikipédia et je trouve que c'est mal foutu. Je me dis que je peux leur présenter plus simplement les notions, avec un peu de merveilleux scientifique que Wikipédia est vraiment incapable de faire. Donc je le fais, et puis on arbitre, hein. C'est l'art de l'économie, hein, la bande dessinée, à cause du nombre de pages. Hein. Voilà, donc c'est... Oui, on va faire là, puis on reviendra là. Ah oui, c'est... Bah si, c'est un peu mon but, c'est pour ça que ça me vexe. Quand j'en trouve moins, ça me vexe, parce que j'ai essayé, quoi, voilà. Mais si ça se trouve, non. Mais pour moi, j'ai du mal à séparer mon activité d'auteur avec mon activité d'amateur en physique, avec le je suis un matheux naturel, je fais partie de ces gosses qui ont eu la chance d'avoir jamais écouté en cours de maths et d'avoir toujours eu 20, quoi. Donc il y a une partie de mon cerveau qui joue avec ça, et c'est pour ça que je fais du développement en intelligence artificielle, parce que en termes d'exercice logique, c'est un des bonheurs absolus. Voilà, je suis pas un auteur de BD qui veut faire machin, je suis un espèce de tas qui essaye de faire au maximum, au mieux, tout le temps, là où il est. J'avoue qu'un de mes plus grands plaisirs, c'est de croiser des gens qui me disent je suis en prépa maths, et je me souviens quand je vous ai lu à 14 ans, Il y a des choses que j'ai été voir après et tout. Le gars qui me raconte qu'il a été voir l'effet Casimir. Parce qu'à 14 ans, il s'est demandé ce que c'était, que le nom était rigolo, et qui aujourd'hui veut aller dans cette branche de la physique-là. J'en ai croisé un. C'est. Il a un Nobel, là je meurs. Hein, c'est... Mais voilà, c'est des choses. Je le fais en partie pour ça, parce que c'est de la passion. Enfin, on est dans le. Alors, chez moi, c'est un hobby. Je suis pas scientifique, quoi, mais c'est un hobby fait de manière professionnelle par les moyens que j'utilise ailleurs. Voilà. Enfin, c'est. Ah oui, c'est. De la même manière que j'espère toujours que les petits trucs que j'ai semés sur la capacité de destruction des humains par eux-mêmes participeront d'un ensemble de pensées là-dessus, comme la palette des singes, Statue de liberté cassée à la fin, elle a quand même sans doute fait du bien pour qu'on arrête de faire des conneries avec les armes nucléaires. Quoi, voilà, quoi, c'est pas que cette scène-là, mais la multiplication de ces choses-là. Encore une fois, on fait partie d'un ensemble. L'œuvre qui change le monde, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et on vient aux utopiales pour ça. Enfin, moi, je suis là tous les ans à prêcher. Pour moi, on est des évangélistes, quoi. Et on se dit, voilà, il y a 85 000 entrées ici, et il y a des gens qui vont ressortir avec des idées neuves, et c'est merveilleux, quoi. Enfin, mais c'est bizarre, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire. Là, Qu'est-ce qu'il a en tête? Il ne pourrait pas gagner de l'argent avec ses BD, ce serait plus simple. Mais voilà, enfin, c'est. Je vous racontais que j'ai 13 ans, j'étais voir des colonies fusariennes, parce que j'avais gagné un concours organisé par France 3 à l'époque, enfin FR3, de dessin pour représenter la station spatiale internationale qui n'était pas encore lancée. Et j'avais gagné ce concours et j'ai fait une semaine en Guyane, à la salle Jupiter pour le décollage, sous la tuyère 2 jours avant, le truc qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui, sur le terrain au moment du dégagement de la tour, pareil. Et c'est des trucs, voilà. Et il y avait déjà cette passion chez le gosse, parce que quand je revois ce dessin de station, je vois bien que j'ai. C'est la pensée d'un garçon de 13 ou 14 ans, mais il y a de la passion, quoi. Enfin, je vois bien que ce gosse, il était déjà. Alors pourquoi? Parce que mon père a été abonné à Sens Civique, à 6 ans, je m'ennuyais à la maison et j'ai commencé à regarder les images, peut-être. Parce qu'il y a eu Voyager qui a envoyé ces images de Jupiter à ce moment-là, et que j'ai mis le poster de la tache rouge dans ma chambre et que je me suis endormi devant pendant 3 ans, je ne sais pas. Mais c'est dans le patrimoine génétique. Je pense que toute personne qui fait de la recherche, de l'art et compagnie, a une espèce de moment comme ça où. Pourquoi on a un truc cassé ou un truc qui marche mieux. Moi, je pense que c'est un truc cassé, en fait. L'humain, il n'est pas fait pour faire ça. Il est fait pour chasser le mammouth et se reproduire. Donc. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est clair, en bande dessinée, on n'est pas. C'est pour ça qu'on dit que je fais de l'art science alors que ça n'en est pas du tout. C'est parce que proportionnellement, en effet. C'est un obstacle. En plus, il faut avoir les deux fibres, scientifiques et on va dire littéraires, ce qui n'est déjà pas si fréquent que ça dans la société, même si c'est un peu un cliché de dire qu'on est de l'un ou de l'autre. Mais l'art de rien, on voit bien qu'il y a des tendances. En plus, la bande dessinée, c'est déjà un art hyper complexe à maîtriser. Y ajouter l'écriture, le scénario, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui déjà ne le font pas. Avec cet ensemble-là, se taper, continuer à lire la recherche, enfin, il y a un moment, je comprends pourquoi ça n'existe pas. Et je dirais que, enfin, moi, je reste un grand lecteur de SF, parce que justement, là, c'est plus facile à faire, et tant mieux, quoi, parce que c'est la spéculation physique en SF, c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, ou tout type de spéculation, quelle qu'elle soit. Voilà. Après, je ne décourageais personne. Je ne pense pas être un être exceptionnel. Hein. Je me suis consacré un moment à cette envie-là. Et puis, je pense que quelqu'un qui mettrait les mêmes efforts pendant les mêmes 20 années arrivera au même résultat. Enfin,
les génies ne sont quand même pas très fréquents. Donc, c'est... Alors, au début, c'est quand je devais payer mes factures. Non, mais il y a un moment, on est dans la réalité. Hein. Alors, au début, c'était même quand le journal attendait les pages, parce que c'était prépublié. Ça m'a aidé, en fait, à me poser... je me suis posé beaucoup de questions avant. Il y a un moment à faire, quitte à aller semer quelques erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance que ça marche très bien, donc je ne me pose pas trop de questions d'argent et je me pose donc trop de questions. Certains jours, je me dis qu'il vaudrait mieux pour mon travail que de revenir à des conditions où je suis obligé de produire, parce qu'à des moments, je dirais stop. Parce que d'abord, ça ne sert à rien. Je me pose des questions, dans des questions que je ne résoudrai pas, et à un moment, je craquerai. Mais quand on a l'occasion de continuer à se les poser, on en... Pareil, le dessin, mon dessin est plus fouillé qu'avant, parce que j'ai plus le temps, puis avec l'informatique, en plus, je peux plus plonger, mais je ne sais même pas si c'est utile. C'est pas une vision utilitariste du truc. On le fait à fond parce qu'on peut le faire à fond. Enfin, dans tout secteur, je pense que si on a l'occasion de plonger dans un sujet plus longtemps, on est content. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, je sais pas. Mais enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je m'arrête quand. Alors je m'arrête aujourd'hui quand je suis à bout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je fais. Bon, là, mon vieux, t'es à tes limites, il n'y a plus rien qui sort, ça fait 2 mois que tu blogues sur le sujet, ça fait 2 mois que tu veux machin, bah, tu passes à la scène d'après, puis si la scène d'après, elle bloque aussi, bah, à un moment, ça sera comme ce sera, quoi. Donc, il y a toujours des dessins, des bouts d'idées, des pages qui ne sont pas celles que je fantasmais dans ma tête, et ce sera comme ça, quoi. Bah, ça, enfin, encore une fois, ça, tout le monde connaît ça dans son métier, enfin, on passe malheureusement trop souvent le temps... Enfin, on est obligé à un moment de dire voilà, bah, ce sera ça, ce sera ça, et puis c'est ma limite. Quoi. Oui. Encore une fois, j'ai l'impression qu'en roman, je pourrais laisser plus de trous, plus facilement. Le fait de figer avec des images est quand même déjà... On n'a pas les mêmes terrains d'imagination que le roman. Et souvent, quand on laisse trop au lecteur, il y a un sentiment de manque qui apparaît. C'est un peu difficile. C'est un drôle d'équilibre. On peut le faire, hein, mais c'est quand même un équilibre complexe. Quoi. J'ai souvent l'impression que je ne suis pas allé assez loin si je me repose trop sur les trous que remplira le lecteur. Voilà, donc, alors que je sais qu'en roman, c'est assez magique. On peut jouer à ça assez souvent. Parce que si on multiplie l'information, il y a une sorte d'effet choral qui apparaît, mais on a un roman, c'est l'équivalent de 6 BD ou 7 BD hein, aussi, donc en termes d'information. Donc le voilà. Oui, ça commence à durer, vous en avez peut-être marre. Hein. Oui, on va arrêter.